Bonsoir. Vous écoutez un épisode hors série de Proxy Jeux, l'enregistrement du Meetup Gaming Lab du jeudi 13 juin 2019. Comme pour le deuxième Meetup, l'équipe du Gaming Lab nous a proposé d'animer et d'enregistrer la conférence qui a eu lieu le 13 juin au Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris sur le sujet du jeu hybride. Bonne écoute! Donc bonsoir, merci d'être venu à ce troisième Meetup du Gaming Lab qui parlera aujourd'hui de jeux hybrides. Donc on a trois intervenants qu'on va écouter débattre sur le sujet aujourd'hui. Et rapidement aussi, merci au CRI de nous accueillir aujourd'hui. Donc moi je suis Thomas, je fais partie du podcast Proxy Jeux, et donc comme vous le voyez, on va enregistrer, on diffuse déjà dans la salle, mais on va aussi enregistrer l'émission. Donc tout ça sera écoutable par la suite sous forme de podcast. Je vais donner directement la parole aux trois intervenants, alors séquentiellement, en les présentant rapidement et en leur posant une question qui est la question un peu de base sur le sujet. D'après eux, quelle est leur vision du jeu hybride? Qu'est-ce que c'est exactement le jeu hybride? En quelques mots, et en essayant de donner un exemple concret pour qu'on visualise un peu mieux tous ensemble de quoi il s'agit. On va commencer par toi, Fabrice, si ça te va. Donc, Fabrice Jouvenot, tu es designer et producteur de jeux. Et tu es ici chez toi puisque tu es aussi manager du programme Game Lab, donc pas confondre avec Gaming Lab, qui est hébergé par le CRI et dans lequel tu mets en place des expériences de jeux hybrides et innovants, éducatifs, scientifiques, pour les musées, etc. Alors, je répète la question, quelle est ta vision du jeu hybride et est-ce que tu as un exemple un peu concret, un peu parlant à partager avec nous sur le sujet?
Ok, ça marche. Bonjour à tout le monde. Alors, on est là pour parler du jeu hybride et donc ça paraît être une question facile, mais en réalité, elle n'est pas facile du tout comme question. Je vais essayer d'être le plus court possible. Le jeu hybride, pour moi, il y a un certain temps, c'était tout ce qui était digital, enfin numérique et non numérique ensemble. Typiquement, l'utilisation de téléphone, ordinateur avec un jeu de plateau ou autre. Mais en réalité, en tout cas, on va en parler ce soir certainement. De mon point de vue, c'est quelque chose qui est plus vaste que ça. C'est comment on arrive à combiner deux techniques de jeu qui sont généralement pas ensemble et potentiellement de la technologie dedans. Et comment on arrive à faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans les deux en même temps. Si on peut le faire de manière unique, autrement dit qu'avec une tablette ou qu'avec un casque de réalité augmentée ou je ne sais quoi, ou des dés ou autre. Dans ce cas-là, on n'est pas dans le jeu hybride. À partir du moment où on arrive à les combiner, on est dans le jeu hybride.
Et un exemple ?
Un exemple, j'ai combien de temps? Ok, je vais essayer d'aller vite. Un exemple d'un truc que j'ai produit il y a 4 ans à peu près. C'est un espace vide à l'intérieur d'un musée qui est un bâtiment historique dans lequel on n'a pas le droit de se déplacer. On a le droit de se déplacer, mais on a le droit de rien faire, rien mettre parce que c'est un bâtiment historique et il y a toute une galerie de peintures dans les autres salles, mais pas dans une salle principale. Et l'idée du jeu hybride là-dessus a été de créer un système à travers une narration, on en reparlera certainement après, d'utiliser une tablette pour faire de la réalité augmentée avec une techno qui s'appelle Google Tango à l'époque, qui n'existe plus de nos jours, qui permettait de pouvoir recréer une expérience à l'intérieur de cet espace, qui est un parcours de visiteur entre guillemets classique, mais qui ne s'inspire pas des œuvres à l'intérieur pour réussir à faire découvrir ce qu'il n'y a pas dans le musée. Parce que si c'est pour se réappuyer sur les tableaux, ça n'a pas d'intérêt, mais venir apporter des choses qui n'existeraient pas à travers ce jeu-là, quoi.
Et concrètement, en termes de dispositif, du coup, ça ressemble à quoi ?
En termes de dispositif, c'est une série de tablettes où tout est embarqué, pas de Wi-Fi, pas de connecteur, pas de QR code, pas de capteur Bluetooth ou quoi que ce soit. Autrement dit, totalement non intrusif pour un bâtiment historique. Donc la seule chose qu'il fallait, c'est un animateur, un deck, des tablettes et une très bonne narration autour pour que ça puisse fonctionner.
Ok. On va passer à l'intervenant suivant, Étienne Mineur. Tu es cofondateur et directeur de création d'une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions Volumiques, dans lequel vous produisez des nouveaux types de jeux, de livres, etc., qui mélangent justement le tangible et le numérique. Est-ce que tu veux toi aussi répondre à cette double question?
Cette question compliquée, voilà. Oui, c'est vrai. En plus, le mot hybride n'est pas très joli. Enfin, voilà. Et on parle, alors, quand vous dites hybride, des gens qui ne sont pas dans le domaine du jeu, et surtout jeu de société, ils vont vous parler de moteur hybride, la première fois. Moi, j'ai fait un petit sondage. Ah oui, un moteur hybride. Après, des appareils photo hybrides. Hein. Donc, hybride, alors, j'imagine un scientifique, ça sera la génétique, et, voilà, l'hybridation, les choses comme ça. Alors, dans notre domaine, on va dire du jeu, moi, j'ai fait une sorte de petit, voilà, de petit support, voilà, très beau, où on a, actuellement, quand on parle d'hybridation, la manière dont je le comprends en tout cas, c'est ce mélange, en tout cas cette hybridation entre des mécaniques numériques et des mécaniques tangibles, quand je dis mécaniques de jeu. Et actuellement, alors après il y en a plein d'autres, hein, là c'est pas exhaustif, mais on a des jeux géolocalisés, des objets connectés, la réalité augmentée, la réalité réduite aussi, qui est une sorte de réalité augmentée, mais où on enlève des objets. Donc c'est un peu ce que tu disais, c'est des mécaniques. Alors quand je parle mécanique, c'est des gameplay, des types de jeux qui ne peuvent se créer que grâce à la combinaison de ces deux types de support, on va dire. Et je suis exactement de ton avis, c'est-à-dire que nous, en tout cas chez Volumique, quand on invente des jeux, des mécaniques, des choses comme ça, la première question, c'est si c'était qu'en papier, si c'était que en numérique. D'ailleurs, on a un jeu là qui est un peu vieux, qui est pas encore sorti, mais qu'on a commencé en numérique et on l'a prototypé en papier, c'est B-Movie. Et en fait, on s'est dit en papier, ah mais il est vachement bien. Donc on a dit, ben, et les développeurs avec plaisir, bon, hop, on enlève le numérique et on travaille que sur papier. Ou au contraire, on a d'autres projets. Ou en faisant des prototypes, en testant, on s'aperçoit que le téléphone, c'est le support parfait. Donc, on n'est plus dans un jeu hybride. Par contre, la combinaison des deux, donc là, si je trouve un exemple, nous, c'est World of Yo-Ho. On était parti sur un jeu de société, de pirates, où vos bateaux sont vos téléphones. Donc, à partir de là, on a vraiment créé une mécanique de jeu qui est assez classique. Par contre, la génération des scénarios, les calculs des points et tout ce qui se passe et les événements, sont vraiment liés aux jeux vidéo. C'est-à-dire, comme on sait, l'ordinateur, c'est tout ce qui se passe autour des joueurs. Et, par exemple, on vous le dit pas, mais le joueur le plus puissant, même si les autres le savent pas, sa tête est mise à prix. Donc les autres ont automatiquement des missions où le prix dépend de la force ou l'agressivité de l'autre. Je vais pas aller dans les détails, mais le joueur 1 a déjà fait cette mission, alors se déclenche le volcan qui va exploser. Mais ça, c'est pas dit, c'est vraiment géré. Il y a une sorte de petit, c'est pas une IA, hein, c'est un petit système expert derrière qui va gérer un scénario, un peu comme dans un jeu de rôle où le maître du jeu va improviser, dire ah ben flûte, il a balancé machin par la fenêtre, c'est dommage, c'était lui que mon contact. Voilà, donc il doit gérer ça. Voilà. Alors après, on pourra aller plus loin, mais on en parlera après. Ou est-ce que le jeu vidéo, à sa base même, j'ai des photos après, la console par exemple Magnavox de 72. Était la première console au monde, était vendue avec des dés, avec des jetons, des billets de faux, de Monopoly, de banque, des choses comme ça. Dans l'ADN du jeu, on a déjà l'objet physique. Et pareil, actuellement, même malgré la réalité virtuelle, le streaming et tout ça, il n'y a jamais eu autant de hardware, de matériel physique pour jouer aux jeux vidéo. Je parle même pas des serveurs, mais je montrais là le dernier joystick de Microsoft, il vaut $200. Voilà, c'est des joysticks. Voilà, les gens vont dépenser, les gros gamers ou gameuses vont dépenser beaucoup d'argent dans le matériel en fait. C'est assez marrant. Alors qu'on est maintenant complètement dématérialisé, on ne va plus acheter de boîte. Voilà. Donc fin de cette parenthèse un peu longue.
Et enfin, Julien Bobroff, tu es professeur d'université à Paris Sud. Tu as fait des recherches en physique quantique et tu animes notamment le programme La physique autrement, où vous essayez par des expériences aussi là aussi innovantes de vulgariser et d'enseigner la physique.
Ouais. Donc moi je ne sais pas ce que je fais là ce soir, vu qu'en gros on fait pas de jeu et on fait pas d'hybride. Donc sur la définition je sais rien te dire. Nous on se pose la question du jeu pour l'enseignement et pire à l'enseignement de la physique. Et donc tout l'enjeu pour nous c'est rendre la physique expérimentale sympa pour nos étudiants qui s'ennuient en TP. Voilà. Donc nous on a exploré le jeu dans ce cadre-là. Et la première tentative c'était juste de leur demander à eux de faire des jeux. Et qui était très souvent évidemment hybride parce qu'il mélangeait plein de technologies qui étaient au cœur en fait de la science expérimentale, quoi. Donc de la carte Arduino, du smartphone, du capteur, etc., etc. Et ce qu'on a fait plus récemment, c'est essayer de ramener de la fiction là-dedans. Donc qu'est-ce qui se passe quand on met de la fiction, des objets technologiques, mais qui nous, en gros, nous servent à faire de la physique, et des étudiants en physique assez standards, hein, et qu'on mélange le tout. Donc ça serait ça l'exemple que je pourrais redétailler un peu après plus longuement. Mais pour être très honnête dès le début, nous, tout l'enjeu de cet enseignement, c'était fuir l'hybride. C'était vraiment faire des jeux anti-hybrides, au sens où nous, on voulait surtout pas ramener de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de la simulation, des outils numériques, parce que c'est une forte tendance dans l'enseignement de la physique et qui fait qu'à la fin, les gens comprennent plus bien ce que c'est qu'une expérience de physique parce qu'elle marche pas bien comme le jeu vidéo, en gros. Il y a eu un grand mouvement de simuler dans l'enseignement et de créer des jeux de simulation. Parce que c'est moins cher, en gros, pour les universités que de faire des vrais labos. Et donc, nous, tout notre propos, c'était, à travers le jeu, ramener les étudiants face à la vraie réalité et le vrai monde. Et que donc, l'outil technologique soit manié avec un peu de parcimonie pour qu'il ne masque pas la réalité.
Très bien. Ça montre déjà qu'effectivement, l'objet dont on va parler ce soir n'est pas si simple à circonscrire. Mais on va essayer quand même d'en parler, d'en débattre. La question que je peux vous poser ensuite, c'est Il existait aujourd'hui du jeu vidéo, il existait du jeu de rôle, vous avez cité le jeu de société. Pourquoi vous avez décidé, vous, de plutôt vous pencher vers des expériences qu'on qualifie d'hybrides ? Qu'est-ce que vous y voyez comme avantage ?
Donc j'ai pas précisé l'objectif du Game Lab. Nous ici, c'est pas très loin de ceux de Julien, parce que c'est de faire de la transmission de connaissances. Donc on n'est pas que sur de la physique, on est sur tout type de domaine. Ça peut être de la sensibilisation, des cours de biologie, ça peut être essayer de changer la société, enfin peu importe. Donc c'est transmettre un message à travers un jeu. Et donc déjà faire un bon jeu, c'est pas facile. Faire un bon jeu pédagogique en plus, c'est un bel écueil. Donc on en a, mais on a aussi de jolis succès. Et une des choses pour lesquelles on est parti sur les brides, c'est qu'on a deux axes principaux. Le premier, lorsqu'on crée un jeu, c'est soit on s'intéresse essentiellement à la cible et au contenu. Et on dit, ok, de quoi on veut parler à qui? Et on va essayer de trouver un moyen d'en parler le mieux. Donc ça peut être un poster, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un jeu de rôle, enfin peu importe. Mais on s'intéresse surtout pas à la technologie sous cet angle-là. Soit on fait l'inverse, on prend de la technologie, on se dit comment on peut utiliser cette technologie qui est plutôt émergente, qui est pas complètement éprouvée, et qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne pourrait pas faire autrement. Alors pourquoi on a de l'hybride? Parce que souvent on va se retrouver un peu le cul entre deux chaises. Et notamment, on a trois axes d'apprentissage, nous, qu'on utilise énormément et qui nous amènent généralement à de l'hybride. Le premier, donc, c'est le jeu. Bon, le jeu, on en parle ce soir, donc c'est plutôt cohérent, et je pense que tout le monde est d'accord ici, mais c'est un processus d'engagement auprès du joueur, et donc du coup de décision, et donc de capacité à pouvoir faire de la rétention de l'information, puisqu'il est impliqué à l'intérieur. Le deuxième, c'est tout ce qui est haptique et mouvement. C'est-à-dire l'implication du corps dans un processus de ludique et avec du contenu derrière permet de stimuler d'autres zones du cerveau et donc du coup de faire de la rétention de l'information de manière plus précise. Si on va se mettre à courir, se déplacer, tirer, on a une rétention qui est différente que simplement si on écoute ou si on lit ou si on joue assis autour d'une table. Et le troisième, c'est la narration et l'interaction humaine. Donc ça nous permet d'avoir des interactions avec les gens, donc de créer de l'émotion ou de mettre une narration, une immersion qui va permettre de susciter des émotions, notamment des émotions positives, de manière à ce que ces émotions positives, généralement, même si c'est de l'essai-erreur, le succès à la fin, elle est positive, ça permet de faire donc cette rétention d'informations, encore une fois, en stimulant d'autres parties du cerveau. Donc en mêlant les trois, jeu, donc interaction, mouvement et manipulation, et enfin mettre tout ça dans une narration et une émotion globale, ça nous amène généralement sur de l'hybride.
Moi, j'avais prévu 15 minutes sur cette question, donc je vais essayer de... donc 30 minutes en vrai. Donc, alors, première chose, pourquoi nous, à Volumic, on a décidé de faire ça? Donc, il y a un peu plus de 10 ans. On a à peine 10 ans, là, nous. C'était l'opposition. Moi, je travaillais pas mal dans le domaine de l'édition et du numérique et mes développeurs dans le jeu vidéo. Et on était étonnés de l'opposition, surtout dans l'édition papier, numérique, objet physique. C'était vraiment, il y a des domaines. Moi, j'ai travaillé dans la mode. Le numérique, c'est le mal. Enfin, vraiment, c'est le gadget, c'est le superflu. Et dans l'édition papier, c'est encore pire. Et j'étais très étonné puisque on se disait, mais voilà, moi, j'avais eu la chance de travailler pour Nokia avant, juste avant l'iPhone. On voyait ce qui arrivait dans nos poches et le numérique était partout. Et alors, vraiment, quand il allait vraiment arriver en force dans nos poches, si j'ose dire. Et on s'est dit, aussi bien les développeurs que les graphistes avec qui je travaille, ça serait intéressant, au lieu de les opposer, ces deux univers, mais au contraire, de les lier. Et alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais nous, on a commencé à bidouiller, alors quand je dis bidouiller, c'est vraiment bidouiller, hein, c'est des morceaux d'aluminium, qu'est-ce qui se passe avec de l'encre argentée, et si je mettais cette saucisse de cocktail sur mon téléphone, et ça marche, oh, il croit que c'est un doigt, je vous le dis, hein, ça marche, un chat aussi, tiens, c'est rigolo. Voilà, on a testé plein de trucs, et à un moment donné, bon bref, on a trouvé un système qui permet de, je vous le montrerai après, quand on pose un objet physique sur un téléphone, il n'y avait pas encore l'iPad, mais en gros, disons sur une tablette, on arrivait à reconnaître cet objet, lequel c'était plus position et rotation. On est allé voir des domaines dans l'édition, papier, en disant, regardez, c'est intéressant, ça marche même avec des cartes à jouer et tout. Et là, on m'a regardé vraiment, c'est rigolo, Étienne, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, quoi? Voilà, j'ai dit, ben non, il y a des choses à faire. Et en fait, on l'a montré sur YouTube, pour tout vous dire. Et alors là, c'est un domaine que je connaissais très mal, domaine du jeu de société dans la seconde qui sont venus. Il y a Asmodée, pour tout vous dire, et Hasbro. Mais tout de suite, on peut se voir. Donc c'est marrant, parce qu'on a eu un retour des gens du jeu de société et les gens d'Hasbro, par exemple, aux États-Unis, nous ont dit, mais nous, le numérique, aucun problème. Vous savez, dans 50 ans, il y aura toujours des dés, des cartes et des ballons. Hein. Ouh, le numérique, on ne sait pas où vous serez. Pas du tout stressé par rapport au numérique, c'était marrant. Donc c'était très positif et passionnant de discuter d'ailleurs avec des game designers de jouets. Ça, j'avais jamais vu. Qui savent ce qui se passe dans les cours d'école. C'est rigolo. Hein. Donc il y a eu des échanges très instructifs. Et puis après, on a commencé à travailler, ils nous ont passé commande, pour tout vous dire. Donc là, on a une vraie commande, on crée une société, parce qu'on se dit, flûte, ils nous passent commande, il va falloir faire un truc. Et donc, on est rentré dans ce domaine comme ça, mais d'une manière très par le bricolage et en voulant aller quelque part. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que vous croisez qui dit, tiens, si on allait par là. Et donc, alors moi, j'adore le jeu, donc ça tombe bien. Mais on s'est retrouvé voilà, dans le domaine du jeu de société et donc du domaine hybride parce que à l'atelier, il y a vraiment des développeurs. Moi, je suis designer de formation et puis on a des graphistes, des game designers. Voilà, on a tout un milieu comme ça. Et aussi, il y avait dans le domaine du jeu vidéo une frustration des développeurs et des gens qui travaillent dans ce domaine, justement, ça se dématérialisait de plus en plus, et cette frustration d'avoir des objets physiques. C'est rigolo, hein, parce que quand je dis rigolo, c'est intéressant, je veux dire, puisque en demandant à droite, à gauche, les gens disaient « Ah ouais, c'est vrai que ça nous manque, en fait, ce côté, voilà, lancer des dés. » Par exemple, le truc chez Hasbro, nous ont dit « Vous touchez pas aux dés, voilà. Les dés, vous faites ce que vous voulez avec la tablette, mais le dé, c'est à la main. » Voilà, il n'y a rien de plus... en plus, c'est rigolo, j'ai fait une... Je dis toujours rigolo, moi, c'est intéressant. Monsieur rigolo, ouais. La chance d'avoir ce métier. Les gens souffrent sur leurs dés, secouent. Enfin, y a toute une sorte de mise en scène, de dramaturgie du lancer du dé, qu'en numérique, ça ne marche pas. Alors, on peut trouver d'autres systèmes pour créer des chiffres aléatoires, hein, mais par exemple, Hasbro nous a montré des études où les gens pensaient que c'était triché, par exemple. C'est-à-dire que, vous savez, vous dites à votre... Il y a plein d'applications qui font ça. Voilà, dis-moi, donne-moi un chiffre entre 1 et 100. Les gens disent, ben non, je pense que c'est triché, c'est faux, il n'y a pas du tout cette magie. Voilà. Donc par exemple, les dés, il n'y a pas de problème. Donc on a travaillé toujours sur cette idée de voir quel était, au niveau de la notion du plaisir de jouer, qu'est-ce qui est plus plaisant sur écran et qu'est-ce qui est plus plaisant sur le support physique. Par exemple, une grande carte, Pampio, c'est venu de là. Moi, je suis fasciné par les cartes. Et une carte sur écran, vous avez même avec un grand écran, c'est toujours frustrant. Alors qu'une grande carte là sur une table ou un grand plateau, c'est toujours... Vous voyez, les gens se plongent dessus, vont regarder les détails, vont analyser ça, vont se raconter une histoire. Mais en même temps, nous, on a mis avec Yo des petits écrans dessus qui vont vous donner des informations contextuelles et dynamiques. Et pareil, on s'est aperçu que dès qu'il y avait un écran, par exemple, personne ne lit la règle du jeu. Alors personne, je peux vous le dire. Yo, par exemple, on considérait que c'était un jeu de société. Écrire un mode d'emploi, c'est vraiment un métier très dur. Donc nous, on a 8 pages, je crois, on est arrivé à 8 pages, mais personne l'a lu, puisqu'on a fait des tests. Alors que nous, je sais pas, un jeu de société, là, on prend n'importe quel jeu qu'on connaît pas, si on lit pas la règle, assez rapidement, on va s'arrêter de jouer. On va pas trouver ça super fun. Et donc, dès qu'il y a un écran, voilà, donc il y a le principe d'induction et déduction. Hein, dans le jeu de société, on va dire, on a la déduction, on déduit d'une règle générale des cas particuliers. Alors que dès qu'on a un écran, on va induire d'un cas particulier vu sur l'écran, j'en induis une règle générale. Voilà, quand j'appuie sur A, il saute. Donc j'induis qu'en général, le petit bouton A va me servir à sauter. Donc c'est deux mécaniques même pour les joueurs qui sont totalement différentes. Et on essaye de les hybrider. Et ça, c'est vraiment, faut analyser les comportements. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que, par exemple, je sais pas, nous, on travaille sur, on fait toutes les applications pour Unlock, que vous devez connaître, le jeu de cartes. Y a plein de mécaniques de jeu sur ces machines, ce qu'on appelle, qui ont été annulées, qui ont été remplacées par d'autres, parce que, je sais pas, 50% des gens comprenaient pas. Voilà. Mais c'est de notre faute. C'est-à-dire que tout d'un coup, on dit, bah ouais, mais regarde, je veux pas vous spoiler, mais des fois, il y a une boîte où il faut lui parler, le téléphone. Ben, il faut arriver à comprendre qu'à un moment donné, il faut parler à son téléphone, ce qui n'est pas évident dans un jeu de société. Ou d'habitude, c'est plutôt un timer où on va appuyer. Donc en fait, c'est vraiment passionnant parce qu'il y a de la psychologie, il y a de l'ergonomie, il y a du design, il y a du développement, il y a du graphisme, il y a du montage vidéo, il y a du design sonore. Voilà. Donc ça mélange énormément de corps de métier. Donc il y a plein de choses à trouver. Et c'est pour ça que moi, personnellement, que j'y suis allé. Je me suis dit, oh, il y a plein de trucs à faire. Bon, après, il faut arriver à trouver... que ça soit intéressant. Et pareil, dernière chose, on s'est aperçu, dès qu'il y a de l'image animée sur un écran, les gens vont plonger dedans vraiment. Bon, je le savais, mais là, on le voit vraiment. Par exemple, sur l'écran dans Yo, dès qu'il y a un peu d'animation, tout le monde regarde. Voilà. Ce qui permet, en plus, j'ai vu des gens qui trichaient comme ça. C'était bien. Voilà, ils sont arrivés à tricher avec des jeux hybrides et avec du numérique, ce qui est assez fort. Voilà. Donc, après, on va continuer. Je te laisse parler, mais j'ai d'autres exemples après.
Alors donc, le pourquoi le jeu hybride et qu'est-ce que ça nous permet? Donc nous, évidemment, on n'est pas des concepteurs de jeux, enfin on fait ça pour l'éducation. Donc nous, ce que ça nous permet en gros, c'est sortir les étudiants immédiatement de leur zone de confort et en un temps le plus court possible. Parce que nous, on a des contraintes très pratiques, on nous dit, vous avez les étudiants pendant 2 jours, ce qui est déjà énorme pour l'université. Faites ce que vous voulez pendant 2 jours, mais après vous nous les rendez parce qu'ils ont des partiels, des machins, des trucs. Donc nous, l'enjeu, c'est comment on peut les décaler et leur faire comprendre la mesure et la science et les expériences en un temps record. Donc nous, ce qu'on va hybrider, c'est des situations de fiction, on va les plonger dans une fiction assez violente très vite, et les outils numériques dont, pour le coup, ils ont l'habitude. C'est-à-dire, eux, ils viennent de ce monde plutôt, du numérique, du capteur et autres, et on va les emmener dans un monde très différent de la salle de TP. Donc nous, très concrètement, ce qu'on a fait là dans le dernier truc qu'on a fait, c'est qu'on les convoque, l'Agence spatiale européenne en fait les convoque parce que c'est des ingénieurs de l'Agence spatiale européenne pour un week-end team building. Et puis à peu près au bout de 5 minutes du week-end, il y a une annonce terrible à la télé que il faut sauver un vaisseau en direct et que l'Agence spatiale a été attaquée et il faut qu'ils prennent le relais. Et donc ils vont devoir dans une fiction aider le vaisseau, donc c'est ça le jeu. Et les outils qu'ils ont à disposition, donc en gros la mallette de jeu, elle est minable, donc c'est la mallette parce que le vaisseau est complètement naze, donc ils ont tout perdu, donc ils ont qu'une mallette de substitution et ils ont le double sur Terre. Et dans la mallette, on joue exprès, nous, sur la pauvreté, donc il y a 3 smartphones, 2 cartes Arduino, un peu de papier alu et de la pâte à modeler en gros. Et pour eux, c'est déjà incroyable de richesse par rapport à leur monde des travaux pratiques où ils ont des machines à 10 ou 20 000 euros hein, habituellement. Et donc, on joue sur ces éléments. Et dans la mallette, c'est là où je retrouve peut-être des choses que vous dites, on mélange très volontairement du super tangible, donc c'est vraiment de la pince, du tournevis, etc., et du numérique et des choses qui peuvent permettre un petit peu de choses augmentées, mais bon, du smartphone, en gros, et de la carte Arduino. Et ce mélange-là les surprend parce qu'ils n'en ont pas du tout l'habitude. Parce que soit ils sont dans un monde complètement technologique de mesures très raffinées, soit, ben non, c'est tout, en fait, ils sont que dans ce monde-là. Et jamais de leur vie, ils utilisent de la pâte à modeler ou du papier alu en physique, quoi. Et donc, soudain, de devoir mélanger les deux et en même temps sauver un vaisseau à distance, voilà, va les perturber. Après, il y a tous les éléments que va permettre la fiction. Donc, nous, ça, c'est ce qu'on a appris de gens comme Fabrice, par exemple. C'est comment construire une fiction. Donc là, on retrouve tous les trucs des jeux de rôle, des jeux de rôle grandeur nature et autres, qui est comment construire un scénario qui les plonge, qui fasse qu'ils réagissent, mais qu'ils aient la trouille, mais que le temps, le machin et tout. Enfin, voilà. Ça, c'est toutes les astuces que nous, on a découvertes et qu'on connaissait pas à l'avance. Le rôle, quel est le rôle des profs dans cette histoire-là? Donc, nous, on est à peu près des débiles profond des ressources humaines, voilà. Donc on ne sait rien jamais. C'est Fabrice qui nous avait dit, il faut surtout pas être les profs là-dedans. Donc on ne sait rien, on est complètement incompétents. Quand vraiment ils sont bloqués, ils ont le droit d'appeler une fois dans les deux jours ou dans la journée, je crois, un expert russe qui va leur répondre par Skype avec un accent catastrophique. Et voilà, on est donc plein de petits éléments de fiction qu'on va rajouter. On se pose et on s'est posé la question de rajouter des couches de réalité augmentée, de réalité virtuelle, etc. Pour l'instant, ça nous semble complètement artificiel et on va plutôt fuir ça et les ramener dans le réel et le tangible. Et parce que c'est ça le ressort, nous, qu'on veut jouer. Et c'est ce qui se joue d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on débriefe avec eux, le premier retour qu'on a, donc ils sont super contents d'eux. Ils ont été hyper créatifs. Ils ont fait des choses incroyables qu'ils auraient jamais fait sinon, etc. Donc ils sont très contents et très contents d'eux. Et on leur demande pourquoi, qu'est-ce qui vous a débloqué. Et le premier truc qu'ils nous disent, c'est, ah, pour une fois, c'était comme pour de vrai, comme dans le monde réel. Alors qu'on leur fait rencontrer des extraterrestres. Enfin voilà, ils sont vraiment pas dans le monde réel. Mais ça montre à quel point les situations d'enseignement habituelles sont complètement artificielles et déconnectées de toute chose. Et que donc, soudain, les mettre dans une fiction avec un vaisseau, un machin, ils ont l'impression que c'est le monde réel parce qu'il n'y a pas de solution. Donc pour nous, c'est très important, hein, parce qu'on nous bassine beaucoup avec les escape games ces temps-ci, notamment pour l'éducation. Et ça peut avoir sa fonction. Mais nous, c'est surtout pas ça. Nous, tout le principe, c'est qu'il n'y a pas une solution, qu'on ne connaît pas a priori la solution, et aux étudiants de se débrouiller. Et le fait d'être face à un monde ouvert comme ça, où il y a du tangible, où il y a du numérique, il va falloir un petit peu se dépatouiller de tout ça, ça a l'air de déclencher des choses intéressantes chez les étudiants.
Waouh! Donc, juste pour synthétiser rapidement, comme avantage, vous avez parlé de... Simplement, c'est un terrain d'innovation, ça, on l'a bien entendu, je crois, et que c'est à la fois intéressant pour les concepteurs, et puis pour ça chahute un peu les habitudes des joueurs ou de ceux qui sont mis dans la pratique, donc ça, c'est très bien. Il y a ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a une faculté d'immersion qui est encore supplémentaire, puisqu'elle mélange les deux mondes. C'est encore aujourd'hui très original, donc effectivement, j'imagine que ça aussi, c'est un projet naturellement hybride, aura sans doute plus de communication, enfin, je sais pas si vous le constatez ou pas, peut-être même plus de financement. Je ne sais pas si ça fait partie des choses qu'un projet classique. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions, là, tout de suite, qui vous viennent sur les avantages? Je ne sais pas, moi, j'avais pensé, par exemple, au retour utilisateur, le fait de mêler le numérique et le jeu de société. Est-ce que ça ne vous permet pas de mieux suivre ce que font les gens avec vos dispositifs?
Alors, j'avais fait une slide où je répondais à cette question. Alors, attendez, voilà, je vais y arriver. Vous voyez, j'avais plein de trucs. Voilà, pourquoi inventer des jeux hybrides? Voilà. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a aussi, moi, la première chose aussi, c'est par rapport, moi, je teste et je joue à plein de jeux de société, là, pour ma culture et mon plaisir. Par exemple, il y a déjà à la base, c'est la simplification, souvent, par exemple, le setup, la mise en place, des fois, les règles du jeu. Par exemple, on voit sur TrickTrack, moi, j'ai rencontré je suis revenu au jeu de société grâce à des vidéos sur YouTube. Où tout d'un coup, me regardait bizarrement, je regardais pendant une heure des gens jouer, puisque tout d'un coup, j'apprenais à jouer en regardant, et souvent, c'est les auteurs, en plus, qui jouent devant vous. Donc ça, c'est une manière, la vidéo, alors que lire une règle, quand même, quand vous... Enfin, moi, j'ai commencé, je crois, avec Battlestar Galactica, il y a 10-15 ans, là, vous voyez, ce jeu, bon, j'adorais la série et tout, mais tout seul, vous voyez, vous achetez ce jeu, dites, ouais, ça doit être super bien, Et là, après 20 minutes, faites, ouais, je crois que c'est pas, enfin, je suis idiot, quoi. Enfin, voilà, j'y arrive pas. Et tout d'un coup, vous regardez une vidéo, vous, voilà, vous trouvez des copains, des copines et vous jouez avec et c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que par exemple, le jeu, en tout cas, l'arrivée du numérique dans le jeu de société permet à des gens non spécialistes d'accéder plus facilement à certains jeux, certains types de jeux. Donc ça, c'est un côté, alors, via la vidéo, mais aussi quand on a maintenant des jeux où on a besoin, alors, je mets le portage complètement à côté, hein. C'est pas du tout hybride, hein. Par exemple, les jeux comme Splendor, enfin voilà, les jeux, par exemple, Asmodée Digital qui fait ça, c'est vraiment un autre domaine. C'est vraiment du portage, c'est les mêmes règles, voilà, c'est très bien, mais c'est autre chose. Là, par exemple, la mise en place de certains jeux, ben, c'est guidé par le tutoriel qui est sur écran, et comme ça, vous êtes sûr de pas vous tromper, vous gagnez énormément de temps. Pareil, quel type de carte vous devez prendre, tac tac, on vous le dit, vous avez même pas besoin. Alors, ça, c'est autre chose, pas besoin de trop réfléchir, c'est dommage, mais des fois, ça aide. J'avais mis la simplification et amélioration, c'est-à-dire des fois c'est la rendre le jeu beaucoup plus fluide. Des fois, par exemple, moi j'en peux plus là, les jeux où à la fin du jeu il faut 20 minutes pour compter les points pour savoir qui a gagné. Alors vous dites honnêtement, là vous faites une photo du plateau, et ben en gros vous pourriez presque en déduire, ben voilà, Bidule a gagné. Alors je sais que des fois ça fait partie du jeu, le stress de dire je suis à 10 points, je t'ai doublé de 12 points, voilà, un truc comme ça. Mais des fois il y a certains jeux, par exemple les jeux à l'allemande, ou qui demande vraiment ces gros calculs à la fin. Et moi, moi, je suis le public où je fais, ouais, c'est bon, vous m'appelez quand c'est fait, et puis si j'ai gagné, vous m'appelez, et puis bravo. Donc, il y a ça, la simplification. Alors, des fois, il y en a qui aiment, hein, c'est pas le problème, mais ça permet à notre type de public de jouer à des jeux comme ça, assez calculatoires. Et après, il y avait tout ce qui était plaisir et usage, hein, au niveau ergonomie. Par exemple, rajouter du son, rajouter un timer. Par exemple, Unlock, en gros, vous êtes 5% du temps sur le téléphone. Mais il y a certaines énigmes et certaines choses qui ne peuvent pas se faire sans téléphone. C'était pensé comme ça. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'Unlock a été pensé. Bah d'ailleurs, le créateur, je crois, a fait des études d'informatique à la base. Donc d'ailleurs, c'est lui qui a codé la première version du jeu. Au début, c'était plutôt un timer et un compteur de points, hein, et pour avoir des indices. Et puis après, il y a ce que tu disais, c'est l'immersion. Enfin, très rapidement, dès qu'on a du son et de l'image ou des slides ou ce qu'on veut, on est beaucoup plus facile, enfin, pour moi en tout cas, je rentre beaucoup plus facilement dans un univers via du son, par exemple, que via une règle du jeu de 200 pages. Voilà. C'est à peu près normal. Voilà. Donc, quand c'est bien géré, je trouve que ça marche très bien. Et dernière chose, on va dire, c'est par exemple sur Unlock, maintenant, on sait, alors on vous espionne pas, mais on sait exactement combien de parties sont jouées dans le monde. Combien de temps? Si les gens ont demandé des indices. C'est-à-dire que ça, alors c'est anonymisé, hein, il n'y a pas de problème. On se moque de savoir si c'est Martin, Jacques ou Valérie qui a joué. Ça fait un retour au game designer en disant, tiens, c'est marrant, encore, ou rigolo, comme vous voulez. Les gens ont mis, par exemple, cette énigme, tout le monde a bloqué, visiblement. Tout le monde a demandé tous les indices. Donc, c'est qu'elle est mal dosée. Dans le jeu vidéo, ils le font depuis longtemps. Hein. Par exemple, je sais que Ubisoft sait que, par exemple, je sais plus quel jeu, Assassin's Creed, je crois, Black Flag, 75% des joueurs sont arrêtés à exactement au même endroit. Et moi, le premier, c'est rigolo. J'ai dit, ah, tiens. Normalement, il y avait, je pense, un niveau de difficulté plus dur ou une lassitude. Et donc là, après, les game designers et on va dire les scénaristes ont pu résoudre ça. Et puis dernière chose, d'une manière très pragmatique, c'est qu'un jeu a un prix physique. C'est-à-dire qu'une boîte de jeu, par exemple, ça m'a amusé, ça, quand je suis allé voir, c'était à Essen il y a quelques temps, enfin, il y a 3, 4, 5 ans maintenant.
Le salon d'Essen.
Le salon des salons, voilà, du jeu. On va voir les distributeurs. Bon, j'ai mon jeu en français. Je vais voir le distributeur allemand, il prend ma boîte, il regarde même pas ce que c'est. Hein. Il le secoue, il fait 60 euros. Alors je fais, c'est-à-dire, ça, je suis capable de le vendre 60 euros, ça pèse 2,5 kg, ça fait telle taille, ça, c'est un jeu à 60 euros. Alors qu'en numérique, aller vendre déjà un jeu à 60 euros, c'est non, enfin, ça n'existe pas. Hein. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est nous, par exemple, on l'a fait de base, mais c'est maintenant beaucoup, à ce modèle, après, il y a des choses comme ça qui se font, mais les jeux sont gratuits. Enfin, la partie numérique est gratuite. Unlock, c'est entièrement gratuit, la partie numérique. Par contre, si vous avez que la partie numérique, vous n'allez pas aller loin. Et on vend la partie physique. Et vendre un jeu de cartes 20 euros, 24 euros, ou une boîte 60 euros quand il y a pas mal de matériel, ça ne pose pas, vous n'allez pas vous faire insulter sur des forums parce que c'est trop cher. Alors qu'un jeu, au-delà de 2 euros, on fait un scandale, jeu de bourgeois et tout. Vous faites, mais ton téléphone, il vaut 600 euros. Enfin, vous voyez, c'est du délire en ce moment. Et un jeu n'a jamais coûter aussi cher actuellement. Là encore, on a reçu un nouveau téléphone à produire, un téléphone en nouveau Android. Moi, je suis designer, donc on était en train de regarder avec le développeur les zones d'écran qui sont disponibles. Et actuellement, c'est la fête, mais vraiment, le nombre de pixels, les ratios, les nudges, c'est vraiment l'enfer. C'est-à-dire qu'avant, on faisait une mise en page ou deux, on va dire, une mise en écran. Maintenant, il y en a 50. Il faut les prévoir, il faut les programmer. Enfin, voilà. c'est extrêmement complexe. Pas sur Yoho, on a eu, alors il a été bien développé, mais il y a eu un problème sur un téléphone Android chinois où c'était en noir et blanc. Pourquoi ? Alors on s'est aperçu que c'est les gens avaient mis une carte pas chère vidéo et qui si le shader était écrit comme ça, voilà, dans les trucs comme ça, donc il a fallu le corriger, on y est arrivé. Mais vous voyez, c'est des choses qui vous coûtent 3 semaines de développement. D'abord, trouver pourquoi. Pourquoi les boutons sont en noir et blanc. Donc les gens pensaient que c'était grisé, donc non cliquable, alors que non. Voilà. Donc plein de choses comme ça. Et donc voilà, donc économiquement, c'est plus facile de vendre une boîte à 20 euros que de vendre un jeu à 50 centimes, en fait. C'est tout bête, hein. Par exemple, nous, Yoho, je vais finir là-dessus, tout seul, on en a vendu 8000 à 60 euros. Ce qui est très bien. Enfin, on en a fabriqué 8000, ça tombe bien. Alors que vendre 8000 jeux, même à 10 euros sur téléphone, ben vous me dites, à part si vous appelez Ubisoft, Nintendo ou qui vous voulez, ou plutôt les gens qui font Clash Royale ou les trucs comme ça, mais sinon, c'est extrêmement compliqué. Alors que, par exemple, en France, grâce aux petites boutiques de jeux de société, on a un réseau. Nous, on en a vendu juste assez rapidement 2000 au début sur le réseau classique du jeu de société. Et puis après, dans d'autres types de réseaux de distribution. Alors qu'en numérique, nous, on a l'équivalent des jeux purement numériques. Déjà, vous en vendez 500, vous êtes assez content. Voilà. Donc voilà les différents, on va dire, avantages. Et on pourra parler des inconvénients après.
Je veux juste rebondir sur un truc aussi, moi, que je vois, c'est, enfin, ce qu'on voit, nous, c'est une espèce de capacité d'émerveillement et d'étonnement face à son propre smartphone ou son propre iPad qu'on recrée. C'est-à-dire que soudain, ce que tu décris, quand soudain on a pu mettre des pions grâce à vous sur un iPad et waouh, il reconnaît le pion. Quand même pas un truc qui semble hallucinant du point de vue technologique, qui est intéressant, mais voilà. Il y a une espèce d'émerveillement parce qu'on est tellement habitué à ce que tout soit intégré, tout machin et tout. Et nous, on constate ça aussi, le truc de base qui est juste de mettre une goutte d'eau sur votre caméra, hein, sur un téléphone, et qui va le transformer en un super microscope dans l'instant. Et quand on fait ça aux gens, ils sont absolument scotchés parce que soudain... Mais je pense qu'il y a ce truc-là qui se joue, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué aux merveilles technologiques qu'on a dans la poche que soudain, lui faire jouer un autre rôle, lui faire prendre une autre dimension dans un jeu hybride, et nous, en gros, c'est juste le faire utiliser tous ces capteurs pour aller mesurer le monde réel, ça émerveille complètement les gens à un point étonnant et dont nous, on va se servir comme d'un ressort pédagogique. Et je pense qu'il y a ce truc-là aussi dans les jeux hybrides, c'est-à-dire faire sortir de sa carapace l'objet technologique dont on a une trop grande habitude et en lui faisant jouer un autre rôle. Et ce que tu montres là, c'est un très bel exemple dans le monde du jeu ou du jeu de société ou de la carte de visite ou autre, enfin, tout ce que vous avez pu développer chez Volumic. Et nous, on prend un malin plaisir à faire ça. Je sais qu'on avait aussi animé des ateliers, par exemple, alors c'est pas le sujet pour lequel je suis venu, mais avec des écoles de design ou en création numérique où on leur disait, voilà, le sujet du jour, c'est vous prenez un smartphone et vous faites tout sauf un smartphone avec. Et vous en créez un jeu ou un objet ou une installation, machin. Et soudain, dès qu'ils mettent du carton, 3 bouts de miroir et qu'ils le transforment en un objet, par exemple, pour faire de l'optique, ça crée des choses absolument merveilleuses qui nous semblent complètement évidentes et qu'on connaît depuis 200 ans, mais qui sont merveilleuses parce que c'est un smartphone qui le fait.
En fait, pour compléter, ça rajoute un peu de poésie sur cet écran tout plat et brillant, en fait. C'est tout bête, hein, mais nous, on a fait plein de tests et puis des workshops et tout avec des enfants où eux n'ont pas de problème à rajouter de la peinture sur un iPad. Ouais, vas-y, on va dessiner. Voilà. Et ben, en fait, il y a un côté de où là, juste ces petites maisons à papier, des petits morceaux de papier, ça rajoute de la poésie. Et justement, le fait de retrouver du volume sur ces écrans qui sont très froids. Hein. En plus, au niveau du design, chez Apple en premier, c'est le plus neutre, entre guillemets, mais le plus pseudo-clean. On veut rien voir, pas de boutons, pas de fil, rien. Et donc, tout d'un coup, rajouter un côté un peu crado. Enfin, quand je dis crado, c'est un peu bricolage et tout. Les gens font ah mais ouais, il y a un côté émerveillement qui moi le premier me marche sur moi. Donc après je dis si ça marche sur moi, je pense que ça va marcher sur vous. Et ça c'est intéressant ce côté de faire ou de s'en servir d'une lampe ou enfin voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup on déporte un usage sur un autre et là ça crée soit du sens, soit de la magie, soit de l'émerveillement, soit du dégoût, voilà, et là c'est intéressant, voilà, c'est pas pervertir, c'est décaler en fait l'usage, ce que qu'on veut vous donner. C'est-à-dire, on vous dit voilà, un téléphone ça sert pour téléphoner, en fait ça sert plus pour téléphoner maintenant, mais en gros ça sert pour regarder un écran, puis tout d'un coup vous dites l'écran je sais pas, moi j'avais travaillé pour Nokia, on se servait juste du flash lumineux pour informer si vous aviez eu un SMS ou pas. C'est-à-dire qu'il nous avait forcé à dire, vous communiquez des informations à l'utilisateur, quand il est en réunion avec le téléphone à l'envers, d'une manière, comment on appelle ça, calme, c'est-à-dire qui va pas déranger les autres. Et là, c'était juste des petits flashs lumineux, mais très doux, sur l'écran. Et suivant la rapidité de ces flashs, on savait s'il y avait une urgence ou pas, ou c'était, il y avait une sorte de code en morse, voilà. Et ça, c'était intéressant, puisque tout d'un coup, on servait juste du screensaver du téléphone pour donner des infos. Voilà. Et c'était les designers là-bas disaient, voilà, maintenant vous travaillez là-dessus. C'était un peu ton idée. Voilà, vous utilisez le téléphone, mais pas avec l'écran. Interdit. Mais c'est dommage, ils avaient un bel écran. Ben non. Pas d'écran. Ou que la vibration, que le flash lumineux, voilà. Que les ultrasons. Par exemple, il y a des Hasbro avec les Furby, avait développé une petite application bien idiote. C'est-à-dire qu'on pouvait faire vomir le Furby, c'est toujours rigolo. Ben en fait, avec son téléphone, je me demandais comment ça marchait, la connexion, parce qu'il n'y a pas de Bluetooth, rien du tout. En fait, c'était des ultrasons. Donc en fait, quand vous lui lancez une salade, il y avait un ultrason, donc vous n'entendez pas. Alors les enfants de 6, 7 ans, 8 ans entendent, hein, et les chiens aussi. Alors c'est dommage, c'est pour les petits, donc eux, ils entendent. Mais c'est un bruit très aigu, et en fait, il sait si c'est une salade, une laitue ou un burger. Voilà. Et il va dire merci, et si vous lui donnez 3 burgers, vous testerez par vous-même ce qui se passe. Ouais. Mais c'est étonnant, parce que pour les enfants, c'était magique, ils se posaient pas de questions techniques. Nous, on va dire, nous, quand on en montrait Yo, ou les petits... des expérimentations comme ça, il y a plein de gens qui disent mais comment vous faites, c'est un capteur de pression, c'est un capteur de luminosité. Là encore, des gens qui m'ont contacté, ils étaient sûrs qu'il y avait des, c'était quand on posait des objets sur l'écran, ça faisait une zone, ça captait la caméra, enfin un truc très compliqué. Je dis mais non, il y a pas de caméra sur les écrans, enfin sur les écrans, pas chaque pixel, c'est autre technique. Donc les gens imaginent tout ça, alors que les enfants, eux, ils sont dans l'histoire. Voilà. Alors je sais pas, c'était des étudiants, ils sont peut-être un peu plus vieux, mais en tout cas avec les enfants là, moi j'adore les 8 ans là, 8-10 ans, ils sont à fond. Voilà. Ils vont pas vous dire ah c'est capacitif, c'est réactif, c'est un support magnétique, c'est du NFC, du RFID. Non, c'est génial. Quand j'appuie dessus, il fait pouette. Voilà, ça me suffit. Voilà. Je suis réducteur, mais c'est un peu ça. C'est le côté très enfantin. Et après les grands. On aussi cette faculté quand ils rentrent dans le jeu, une sorte de cercle magique en fait, ou à part nous Yo, là où je me suis dit c'est on le fait, c'est quand après certains tests au bout de 5 minutes les gens ne disaient plus mon téléphone mais mon bateau, alors qu'ils manipulaient leur téléphone. Et là j'avais dit, je sais plus avec Julien ou je sais plus qui, j'ai dit, c'est bon, enfin je pense que ça y est, les gens ils sont dedans, parce que nous on galérait techniquement, vous pouvez pas imaginer, mais quand les gens disent c'est mon bateau alors qu'ils ont leur téléphone ou leur smartphone, je sais pas quoi, Android bidule, vous dites bon bah c'est bon, ils sont dans le jeu, ça y est, c'est des pirates. Voilà. Donc ça je trouve que c'était bien. Voilà. Il y a des moments où vous dites, ah, voilà, ça marche. Si au bout d'une demi-heure, ils disent encore, ah, c'est mon iPhone avec le système 11.2, en fait, ah, ça va être compliqué.
Je voulais juste rajouter deux trucs là-dessus, mais à peine complémentaire. Il y a deux points, moi, qui m'intéressent sur ce qu'on raconte. Donc le premier, c'est qu'on est vachement revenu très rapidement sur les tablettes, smartphones, etc. Alors qu'on a commencé en disant l'hybride, c'est vachement large, et on se recentre là-dessus étonnamment. Et donc du coup, il y a deux points là-dessus pour répondre à la question que tu as posée et qui a commencé à être développée. Le premier, c'est l'utilisation. Donc si on reste sur tablette, smartphone par exemple, la capacité à pouvoir utiliser une tablette ou un smartphone dans une narration de telle manière à ce que ça soit inclus dans la narration. On a des jeux comme ça typiquement, Bury Me My Love, qui était un jeu de SMS où on reçoit quelque chose. Ton téléphone n'est pas un support de jeu, c'est ton téléphone. Donc de la même manière, tu peux prendre ce téléphone et réussir à le transformer en autre chose. Ça peut être un détecteur de champs magnétiques, de fantômes, ça peut être un bateau. Mais et là encore, là, ils sont pas customisés. Mais l'idée, c'est que tu peux même le transformer physiquement ou en faire quelque chose d'autre. Et en tout cas, réussir à faire passer d'un support numérique classique à quelque chose qui est à l'intérieur de la narration, ça permet d'oublier clairement le support lui-même. Et moi, c'est un des trucs que je combats, enfin en tout cas que je prône fortement, parce que ça permet de revenir à une histoire plutôt qu'un objet technologique. Et le deuxième point que je voulais rajouter, c'était juste pour les données que tu as commencé à évoquer et de suivi. Donc évidemment, il y a toujours un suivi, enfin toutes les apps qu'on achète, il y a un suivi derrière, de savoir quand est-ce qu'on l'installe, désinstalle, combien de temps on reste, etc. Donc ça, c'est normal. Pareil pour tous les jeux vidéo, qu'ils soient hybrides ou pas. Il y a un autre point nous qui nous intéresse spécifiquement, donc ici et dans plein de laboratoires, c'est les données qu'on peut récupérer pour faire de la recherche. Donc pas tant de l'amélioration du jeu, parce qu'évidemment ça c'est un cas, mais également en termes de pratique, d'usage, de compréhension, qu'est-ce qui permet de comprendre mieux. Je vais vous donner un exemple simple. Dans un musée, vous avez un écran avec 15 images sur lesquelles vous pouvez cliquer, 15 tableaux que vous pouvez regarder. Vous choisissez celui que vous voulez. Dans tous les cas, alors je me rappelle plus des pourcentages, mais le premier à être choisi, c'est celui en haut à gauche. Le deuxième, c'est le deuxième derrière. Et on a fait des tests où on remélange les images de manière aléatoire tous les jours ou à chaque utilisateur. Ça ne change pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'image qui attire le regard, mais c'est vraiment, on commence en haut à gauche. Alors c'est un classique de notre société ici. C'est pas le cas partout. Mais en tout cas, ça, c'est des usages. En tout cas, c'est des recherches qu'on peut faire. Et notamment des recherches qu'on peut encore plus décaler avec le jeu hybride, c'est de réussir à se rendre compte comment on peut avoir des narrations ou des interactions qui vont être différentes à travers un jeu. J'ai deux exemples que je veux donner. Le premier, c'est typiquement si on peut toucher un objet en réalité virtuelle. Si on voit quelque chose de froid et que, en fait, quand on touche, c'est chaud. Ça, en termes de recherche, ça nous intéresse de savoir comment on le perçoit cognitivement et quelle est notre réaction. Est-ce que finalement on l'accepte parce qu'on nous impose une autre réalité, mais pourtant on a bien touché quelque chose de physique. L'autre point, je l'ai déjà oublié. Bon, mais tant pis, ça reviendra. Ah si, c'est une autre expérience typiquement qu'on a développée ici, qui est quelque chose dont je n'ai pas de nom pour. C'est pas de la réalité virtuelle, c'est pas de la réalité augmentée, c'est pas du jeu de rôle grandeur nature, c'est une espèce de truc entre qu'on a mis en place, qui est... Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Time Stories dans la salle ? Une grosse partie ? C'est bien, ça va être plus rapide. C'est un Time Stories, mais en réalité, en live. Quelqu'un rentre dans une pièce, met un casque de réalité virtuelle pour réussir à rentrer dans le corps de quelqu'un, et donc traverser les âges, à part que la personne dans laquelle il rentre, ben c'est un acteur dans une autre salle avec une caméra, des audios, etc., et des gens qui interagissent. Donc on met bien un objet de réalité virtuelle sur la tête, on se transforme et on se passe dans un écran, mais en réalité, c'est bien des humains qui sont derrière. Donc en termes d'émotions, en termes de possibilités, c'est pas du code qui nous empêche de faire... si vous voulez monter sur la table et danser, c'est pas dans le code, vous pourrez pas le faire. Si vous voulez dire à quelqu'un « Salut, vous avez de belles lunettes rouges », je ne peux pas le faire si ce n'est pas dans le code. Là, on peut faire ce qu'on veut. Et l'autre chose qui est intéressante à travers ce genre de processus, donc hybride, mais j'ai vraiment pas de nom pour ce truc-là, c'est aussi quelles sont les limites du joueur ou quelles sont les non-limites du joueur lorsqu'on a quelqu'un en face qui est un acteur, qui sont des vraies personnes. Est-ce que je vais lui foutre une claque ou est-ce que je vais pas le faire? Est-ce que je vais lui toucher une fesse ou pas parce que c'est une vraie personne? Alors est-ce que je me permets ou est-ce que je me permets pas? Donc ça, c'est des axes de recherche qui, à travers le jeu hybride, nous intéressent, mais qui en plus nous permettent d'investiguer des champs de possibles et de jeux qui, comme je dis, j'ai pas de nom pour celui-là, par exemple.
Ok. Vous nous avez présenté. Enfin, on a plein d'exemples maintenant de jeux hybrides et on a l'impression que, en fait, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'un jeu vidéo ou qu'un jeu de société. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les difficultés de production d'un jeu hybride, le nombre de compétences que ça met en scène, comment on peut tester un jeu hybride?
Alors moi, dans mon domaine, le jeu de société hybride, on peut dire que ça rassemble tout. C'est un peu comme l'opéra au XVIIe siècle, c'est-à-dire que ça va rassembler tous les corps de métier en fait. Hein, d'où ça va du graphiste, du fabricant de papier, par exemple Yo. Je reviens toujours sur cet exemple, mais c'était notre gros jeu là il y a 3-4 ans. C'était trouver le bon imprimeur qui soit capable de faire un plateau de 1 mètre de long sans qu'il se déchire. Voilà, c'est tout bête, mais le jeu vidéo a moins ce problème. Après, il y a toute la partie technique, donc qui est plus proche du jeu vidéo, partie ergonomique. Comme tu dis, beaucoup d'expériences et de tests, c'est très itératif. C'est-à-dire qu'on est obligé de tester ce que les gens comprennent, qu'est-ce qui se passe, voilà, s'ils poussent ça, qu'est-ce qui se passe si... par exemple, nous, à un moment donné, dans Yo, en fait, quand on est côte à côte, quand deux téléphones sont côte à côte, pour déclarer que j'attaque l'autre, je dois cliquer sur le téléphone de l'autre. Ben, les gens n'osent pas. C'est-à-dire que les gens n'osent pas. Par exemple, là, actuellement, s'il y a un téléphone qui... je ne vais pas prendre ton téléphone en disant, tiens, tu me le prêtes 2 secondes. Je vais vraiment prêter son téléphone, c'est vraiment, vous avez confiance à quelqu'un. Donc dans le jeu, on s'en est aperçu. On dit, ben non, c'est normal, t'as juste à cliquer. Ouais, mais c'est pas mon téléphone. Ben si, c'est ça qui est drôle, c'est que je fais un axe d'agression, on s'est aperçu qu'attaquer l'autre, c'était vraiment agressif de prendre son téléphone. Voilà. Donc ça, il y a tout le design graphique, tout ça. Donc en fait, ça rassemble un nombre de corps de... Le design sonore, on a eu un musicien, un designer sonore, un scénariste, enfin, une scénariste. Donc ça rassemble énormément de corps de métier et le problème que l'on a, c'est-à-dire qu'on a les deux inconvénients, c'est-à-dire que le jeu de société c'est très itératif, c'est-à-dire que les game designers vont tester mais avec des morceaux de enfin, moi j'ai un jeu là avec Bruno Fedutti, nous l'avait amené, c'était vraiment sur des post-it, mais il marchait très bien alors que c'était que des post-it, vous voyez, tac tac tac, alors que dès qu'on rentre dans le jeu numérique, on est obligé de coder, de le faire. Et en plus, nous, là, avec les enfants, c'est dur de faire un jeu où vous dites « Ouais, le triangle, ça sera un lapin. » Bah non, l'enfant, il voit un triangle. Il dit « Bah non, c'est le triangle. » Ah ouais, d'accord, bon, il faut faire une illustration de lapin. Donc en fait, ça coûte du temps et donc de l'argent de faire un prototype, sachant que beaucoup sont mis à la poubelle. Enfin, parce qu'en fait, on teste « Bah non, c'était une mauvaise idée, on comprend pas ou c'est pas fun. » Enfin, il y a un jeu, là. Nous, ça fait un an qu'on est dessus, alors pas tous les jours, hein. Mais là, on a fait une pause parce qu'il il marche bien, tout est équilibré et tout, mais en fait... il est pas fun. Donc pour un jeu, je trouve que c'est dommage. Voilà, et il n'y a pas une narration extraordinaire autour. Donc on se dit, bon, on fait une pause là-dessus, on part sur autre chose. Donc en gros, c'est ça, c'est qu'on a le côté très itératif à tester. Par contre, pour tester, il faut le coder. Ça prend du temps et donc de l'argent. Et donc il y a beaucoup d'allers-retours et qui sont très longs. Alors le jeu vidéo teste énormément aussi, hein. Mais là, il y a un côté, alors que le jeu de société, moi je suis très jaloux de pouvoir imaginer, voilà, on se met à 3 ou 4, ça coûte pas cher, c'est juste du cerveau et du temps. Et on arrive à faire une mécanique qui tourne. Après, il y a toute la partie graphique, fabrication et tout autour, mais ça peut aller très très vite. Alors que dès qu'on est en numérique, il y a des tests, voilà, ça ralentit énormément on va dire la fluidité de la création ou la spontanéité. Voilà, de dire tiens, souvent, enfin je sais pas dans les jeux, l'idée, elle arrive, c'est quelqu'un qui a, enfin nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, c'est pas des éclairs de génie, mais vraiment quelqu'un par exemple qui n'était pas du tout dans le jeu, qui va dans une réunion puis qui dit mais pourquoi vous faites pas ça, ou qui se trompe, moi j'aime bien ça, qui croit avoir compris une règle, en fait il s'est gouré, puis en fait on dit bah en fait c'est vachement mieux ton truc là, ce que t'as imaginé. Ça nous est arrivé il y a pas longtemps, quelqu'un avait mal compris un truc, on a sûrement dû mal l'expliquer, et en fait on s'est aperçu que ça c'était vachement fun justement, on dit ah bah voilà. Donc alors qu'en jeu vidéo c'est beaucoup plus lourd en fait, voilà, c'est un peu de l'industrie lourde, hein. C'est fabriquer des voitures quoi, c'est la chaîne, c'est un peu plus, c'est moins spontané.
Oui, non. Mais non, mais typiquement, déjà je vais rebondir sur ce que t'as dit, que sur la fabrication d'un jeu vidéo, un jeu vidéo sur en gros qui va marcher avec un jeu de plateau, je parle pas un vrai jeu, un jeu vidéo triple A, ça prend des ressources de dingue, mais un jeu vidéo qui marche avec un jeu de plateau, nous on a une culture de papier pour les jeux vidéo, tout est fait en papier, on a du prototypage papier tellement long avant qu'à la fin quand il faut coder, fais ton cahier des charges et tu godes, alors après t'as tout le graphisme etc, mais c'est pas la partie qui est la plus freinante, qui freine le plus. Nous, les parties qui freinent le plus en termes de développement, et pas que ici au Game Lab, sur les expériences passées, parce que moi je suis vraiment grand public et interaction humaine, justement, c'est que du coup, c'est du public qui est vaste, donc ça veut dire plein de méthodes d'interaction qui sont différentes. Un gamin de 6 ans avec ses grands-parents vont pas interagir de la même manière que deux potes de 30 ans qui sont en train d'arriver, donc il faut qu'on arrive à considérer toutes ces appétences différentes d'interaction. Et surtout une technologie qui est souvent un peu limite. Enfin après ça c'est mes choix personnels. Je préfère faire des choses qui n'ont pas été faites. Donc du coup forcément je me retrouve avec des écueils qui sont des écueils de quand vous mettez 15 vidéoprojecteurs ensemble pour faire du vidéo mapping sur une salle avec du relief, avec des interactions avec les personnes qui sont à l'intérieur. Il faut les traquer, il faut les regarder, il faut regarder comment ça se passe avec le changement climatique naturellement. D'une journée à l'autre, t'as des désalignements qui se font avec les vidéoprojecteurs, t'en as un qui a des dérives de couleurs. Donc c'est toute cette technique en fait qui est derrière, qui est d'un seul coup, qui demande à chaque fois des champs d'expertise qui sont en plus de toute la partie gameplay, toute la partie physique, toute la partie connaissance du public, toute la partie contenu, parce que nous c'est à chaque fois avec un contenu, donc une expertise scientifique ou autre, et la partie développement, graphisme, 3D, etc., et celle qui passe souvent à la trappe, et donc beaucoup parler avec Julien, parce que ça c'est un de mes chevaux de bataille, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'à la fin, alors en effet, il faut que ce soit fun, mais il faut qu'on ait une histoire qui soit derrière, parce qu'il faut que les personnes, à mon sens, l'hybride et en fait l'immersif au sens même plus large, a la capacité de faire en sorte que le joueur ait une place unique et une histoire unique, et qu'à la fin, comme dans un bon jeu de rôle de grandeur nature, si on demande comment c'est passé, j'étais le héros. Et on a tous joué, mais c'était moi le héros. Mais pour chacun d'entre vous, vous croirez que c'est vous. Et si on arrive à faire ça, à mon avis, on a gagné. Et on peut le faire de plein de manières différentes. Et il faut pas le perdre de vue, à mon sens. Et si on le réussit, c'est que c'est gagné.
Alors moi, je suis pas du tout dans les mêmes problématiques. le jeu pour l'enseignement et le jeu hybride pour l'enseignement. Alors il y a un bon côté, un mauvais côté. Donc le mauvais côté, c'est qu'on a quand même en gros peint un rond a priori, au moins pour la première version, parce qu'on le fait en se planquant, et puis après une fois qu'on voit que c'est bien, on va demander de l'argent. Donc on n'a aucune autre expertise que la nôtre, et on est des complets amateurs, donc on va demander aux copains de nous conseiller, mais on doit se débrouiller tout seul. L'avantage, c'est qu'on est très libre, et puis on a un petit public et tout. Alors il y a un truc peut-être particulier par rapport au jeu pour grand public, c'est qu'on peut pas le tester. C'est que vous pouvez tester, faire un truc itératif, avoir un test, machin, etc. Nous, on peut pas se rater, quoi. On a nos étudiants une seule fois et on peut pas leur dire, bon, finalement, au bout de deux jours, on va le refaire parce que là, on voit bien qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Et puis, si on veut le refaire avec des étudiants, ça doit être deux étudiants et l'année suivante. Et puis, l'échelle de temps, c'est un an. Donc, il se passe un an entre deux tests. Donc, c'est un peu violent. Donc, on peut pas se rater. Il faut s'adapter en direct. Donc, voilà. Donc, il y a une contrainte que le truc doit être bien ficelé au départ. Mais par contre, évidemment, on est dans une situation plus souple parce qu'on n'a pas tous les enjeux financiers que vous avez, vous, derrière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'essayait pas de faire les choses bien. Et notamment, alors, nous, on a plein de liens avec le monde du design. Et on commence à se poser plein de questions, justement, de faire appel. Et on a déjà commencé à des illustrateurs, à des designers, à des graphistes pour essayer de mettre un petit peu d'éléments et puis de réflexion aussi de comment mieux designer, entre guillemets, ces jeux-là, y compris dans des contextes d'enseignement. Il y a une problématique que nous, on a, que vous avez pas, ou l'inverse, j'en sais rien, c'est que nous, on n'a pas besoin de faire d'argent, donc ça, c'est cool. Par contre, c'est dommage si on le fait qu'une fois pour nos élèves, et ils sont super contents, et ça s'arrête. Et c'est le lot de l'innovation pédagogique en général. Le monde de l'innovation pédagogique, c'est chacun fait un truc génial dans son coin, il l'invente, il le fait avec ses élèves, puis le jour où il part à la retraite, ça s'arrête, ou le jour où il en a marre, ça s'arrête. Et donc, pour nous, il y a un vrai enjeu d'essaimage, Alors vous, mécaniquement, il y est, l'SMH, vu qu'il faut faire un business model derrière et qu'il faut le vendre. Mais vu que nous, évidemment, on va pas le vendre parce qu'on saurait même pas le vendre, on est ravis de l'offrir. Donc voilà, dans notre jeu, vous pouvez le trouver en ligne. Il y a le kit tout prêt, les scénarios, le machin, le truc. Mais comment faire pour que les autres s'en emparent? Et les autres, c'est les enseignants. Donc par exemple, nous, on a des enseignements du secondaire qui nous ont dit, bah, votre truc de 3 jours avec 20 étudiants à la fac, j'aimerais le faire pour mes lycéens d'une zone défavorisée en une demi-journée. Et au fait, je suis pas prof de physique. Mais est-ce que c'est faisable? Et ça pose, je trouve, des questions intéressantes qui est comment réadapter un jeu hybride en le modulant dans des contextes d'usage très différents, parce qu'on peut pas le calibrer que pour un cas, parce que sinon personne l'utilisera, et comment faire que d'autres gens l'utilisent derrière. Donc en gros, comment commercialiser un objet pas commercialisable et où on va pas demander d'argent pour ça d'ailleurs.
Ça pose la question peut-être aussi d'un autre inconvénient du jeu hybride plus large que simplement des SMH, qui est qu'en fait, il faut à la fois le déployer physiquement et à la fois le déployer numériquement. Donc là aussi, ça rajoute des complexités simplement d'adaptation au dispositif sur place. Je sais pas, quand vous faites quelque chose dans un musée, par exemple, j'imagine que l'expérience, elle vit qu'une fois également. Quand vous vendez un jeu comme Yo-Ho, peut-être que dans 3 ans, plus aucun téléphone ne sera compatible.
Pour la partie muséale, c'est relativement simple en général, parce que si ça a fait des entrées, ça fait de la pub, et donc du coup, ça se revend à l'extérieur. Soit c'est une boîte extérieure qui l'a développé, soit c'est le musée lui-même, et dans ce cas-là, il arrive à le revendre aux autres musées. Donc pour le musée, c'est pas un... Pour un musée sur une expérience assez grande, en général, ça va plutôt bien. La problématique, en effet, de la technologie, typiquement, nous, on a travaillé tous ces derniers mois sur un jeu qui s'appelle Exile to Home, donc vous pourrez apercevoir une partie ce soir. C'est un jeu dont tout le principe de départ a été fait, on fabrique une pièce en réalité physique, en bois. Il y a une partie à la Keep Talking and Nobody Explodes, une partie qui n'est pas en réalité virtuelle, l'autre partie qui est en réalité virtuelle. Mais la partie qui est en réalité virtuelle, elle est dans la pièce physique. Donc tout ce qu'il voit, il peut le toucher et le manipuler. Donc c'est une contrainte qui est assez forte, c'est un choix et un parti pris, parce qu'on voulait quelque chose de modulaire, qui puisse s'adapter à différents locaux, à endroits, qu'on puisse venir le toucher malgré toutes les contraintes qu'on peut avoir de capteurs, de soleil qui nous fait des infrarouges qui vont pas, etc. Mais en tout cas, c'est notre parti pris de recherche et de développement sur ce truc-là. Bon, mais ça, si vous le voulez correctement, bah, il faut que vous... On vous le donne, hein, on est dans Creative Commons, nous, hein, quasiment. Mais on donne nos sources assez volontiers. Bah, il faut que vous ayez de quoi fabriquer des meubles, l'espace, les technologies de réalité virtuelle, une deuxième pièce pour l'équipe qui est physique. Et donc, du coup, c'est des contraintes qui sont très lourdes. Donc, tout ce qu'on peut donner qui sont des briques et qui permettent de pouvoir faire de l'essaimage, typiquement des outils de calibration réelle virtuelle, des jeux de plateau qu'on a développés qui sont juste du print and play que vous pouvez, ça on le fait au maximum. Après, si on peut faire des deuxièmes versions, typiquement ce que vous testerez éventuellement ce soir pour ceux qui veulent, c'est une version qui est juste réalité virtuelle sans les meubles, parce que du coup il n'y a pas besoin de mettre les meubles là et on peut quand même tester. C'est moins bien parce qu'il y a plein de contraintes derrière qu'on s'est mises pour avoir de la physicalité, et si on l'a pas, bon, bah, ça devient un jeu de réalité virtuelle qui est moins bien qu'avec les objets physiques. Mais on a aussi une possibilité, c'est que bah, vous n'avez pas de casque de réalité virtuelle, vous pouvez le faire sur l'ordi. Alors ça, c'est ce qu'on a notre point de départ, mais en réalité, il y a eu de nouvelles contraintes maintenant sur l'ordi simple, ça marche pas. Et d'ailleurs, de toute façon, c'était pas le but. Le but, c'était venir toucher des objets. Donc pour pouvoir le transformer, pour faire de l'essaimage, c'est bien. Ça permet que d'autres puissent profiter de notre code et nos recherches dessus. Mais en même temps, il faut pas perdre de vue les raisons pour lesquelles on l'a fait, les axes à la fois de recherche, de pédagogie qui sont derrière et d'interaction. Mais globalement, oui, moi je maintiens que l'essaimage c'est un des points, et notamment le jeu de plateau, il y en a plein qui sont comme ça, hein. C'est du print and play, vous imprimez et sinon vous achetez la boîte et vous l'avez. Et je veux juste rajouter une chose sur ce que disait Julien là-dessus, sur le, en fait ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est de l'événementiel. L'événementiel, tu te loupes pas, t'as pas le choix. Le jeu de rôle grandeur nature, typiquement, c'est de l'événementiel. T'as tout prévu, et normalement, quand tu fais un jeu, c'est itératif, tu testes plein de solutions. Quand tu fais un jeu de rôle grandeur nature, c'est très rare qu'il soit testé, il y a peut-être des petites mécaniques ou des petites interactions parce qu'on a l'habitude, mais en réalité, le jour de l'événementiel, c'est ça passe ou ça casse. Et quand t'as l'habitude de faire du jeu de rôle grandeur nature, il y a plein de mécaniques et de moyens et de leviers sur place qui te permettent de pouvoir corriger, gérer, etc. Donc ça devient plus un problème. Enfin, tu peux toujours te louper, mais c'est pas le problème principal. Mais à partir du moment où tu rajoutes de la technologie, parce qu'on n'est pas très loin de cette question aujourd'hui, il y a j'ai vu des tonnes de jeux de rôle grandeur nature qui ont voulu mettre de la technologie à l'intérieur, de la puce RFID, du capteur de Bluetooth Low Energy pour faire de la géolocalisation indoor, plein de technos qui sont sympas sur le papier, mais comme c'est de l'événementiel, ça passe ou ça casse, et si ça casse, il faut une solution de secours tout de suite, parce que si tout est basé dessus, ça disparaît immédiatement. Et le jeu va s'effondrer pour une mécanique qui finalement était peut-être gadget. Et il y a plein de cas où moi je vois de la technologie introduite pour faire du mélange numérique analogique, où ton numérique c'est soit parce que tu trouves ça gadget et ça fait de la poudre aux yeux, mais en fait t'en as pas besoin, il y a d'autres moyens, soit c'est un point de vue commercial et un peu peut-être de flemme, mais commercial, typiquement Chronicles of Crimes, qui est un jeu qui a très bien marché. Moi, je suis pas super fan de l'introduction du numérique dans le jeu parce que je trouve qu'il est gadget et que c'est surtout un bon moyen de pouvoir vendre de nouveaux scénarios dessus directement, alors qu'il y a plein de moyens d'interaction et notamment d'interaction humaine qui, je trouve, sont perdus là-dessus par rapport à d'autres jeux du même type. Et donc, du coup, numérique pour le numérique, non. Et typiquement, moi, j'ai fait un jeu de rôle grandeur nature où on a fait tous les SMS, les emails, etc. avec des post-it. Et ça a jamais aussi bien marché qu'avec des post-it.
Oui, de toute façon, on revient à ce qu'on disait au début, il faut que ça soit pas gadget. Enfin, ma grosse peur, et moi, c'est pour ça que je suis assez critique sur des jeux de plateau où l'arrivée du numérique est que gadget, et en fait, ça tue le marché. Enfin, les gens, les premiers, ils disent, bon, mais c'est naze, ce truc. Enfin, voilà. Nous, par exemple, pour Yool, alors par contre, la pérennité des choses, moi, je suis pas trop inquiet, parce que tu vois, moi, je jouais dans les années 80, maintenant, il y a des émulateurs. Enfin, on sait qu'en numérique, de toute façon, alors nous, nos jeux sont disponibles jusqu'à ce qu'Apple et Google soient encore en vie. Donc, a priori, ça va durer un petit moment. Et même plus tard, on a toujours des... Enfin, voilà, on voit dans l'histoire de l'informatique, là, on peut jouer à des jeux de 72 sur votre ordinateur. Donc, il y a des émulateurs. Donc, ça, là-dessus, j'ai assez confiance. Alors après, bien sûr, ce sera gratuit, pirate, tout ce que vous voulez. C'est pas trop le souci. Et puis après, pareil, notre plateau Yoho, un jour, il sera en print. Enfin, j'ai déjà vu sur des forums le PDF. Donc, voilà. Et il y a même des gens qui ont réussi, en faisant des captures d'écran, à refabriquer tout le plateau, puisqu'en fait, en faisant chaque case avec son téléphone, comme la case de ce que vous voyez sur le téléphone et le fond de la case, des gens qui ont réussi à refaire ça. Donc ça, c'était terrible. D'ailleurs, on lui a offert un t-shirt, le mec qui a fait ça. Ce qui nous l'a fait, j'ai fait, ouais, la gars, bravo. Donc là-dessus, voilà. Par contre, c'est vrai que la contrainte qu'on peut avoir, enfin, quand on veut jouer, par exemple, un jeu de rôle ou juste comme ça, c'est, il faut des piles. Enfin, nous, tout bêtement, Yoho, c'est, il faut charger 300 mégas. Ça, c'était le gros problème qu'on a eu, c'est que l'application, alors maintenant, elle fait 250 ou 150, on a amélioré grâce aux algorithmes de compression. Mais au début, l'application fait 300 mégas. Il faut de la place. Faut du Wi-Fi pour le télécharger. Et après, il faut de la batterie. Voilà. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire qu'alors que des fois, vous faites du jeu. Enfin, moi, je joue pas mal au jeu de rôle en ce moment. C'est, voilà, tout est éteint, hop. Et on peut jouer toute la nuit, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est vraiment la règle du jeu, le contrat de lecture ou de jeu au départ. Dit, bon, on vous prévient. D'ailleurs, on prévenait quand qu'on commençait le jeu juste à 20% de batterie, on faisait warning. Ce serait bien que tu joues autre chose. Parce que, voilà, 20%, le jeu dure une heure et demie, ça risque d'être compliqué. Donc ça, c'est le reproche, c'est la règle du jeu. Voilà. Au début, on dit, voilà, c'est comme si tu veux, je sais pas, aller à Bordeaux en voiture, si t'as pas d'essence, voilà, c'est qu'il faut juste prévenir. Par contre, après, c'est ça, c'est les, moi, là, dans les jeux de société, en ce moment, ça va quand même, enfin, dans le jeu de société, je suis en train de réfléchir au jeu actuel, à part le dernier, de FFG, comment ça s'appelle, Seigneur des Anneaux, voilà, qui est la pire expérience de ma vie, en gros. Je suis méchant, mais toutes les critiques sont bonnes, donc mais pour moi, ça a été vraiment pas bien du tout, vous passez plus de temps à faire des allers-retours entre alors c'est un jeu, en fait, vous avez la tablette et un petit jeu de plateau, enfin, un gros jeu de plateau. Et en fait, la tablette vous guide non-stop, mais trop, en fait. Donc, vous passez plus de temps sur l'écran que sur avec vos figurines ou votre plateau. Et moi, ça m'a sorti, mais totalement. Alors que le précédent, c'est Mansion of Madness. J'étais beaucoup plus dedans. Faudrait que j'analyse pourquoi. Peut-être le scénario ou l'univers me plaisait plus. Mais bon, là, je trouvais que c'était mal équilibré. Mais maintenant, en tout cas, par rapport aux distributeurs, alors c'est grâce à des jeux comme Unlock et des choses comme ça, les distributeurs vous disent pas, non, ça, je le distribue pas. Nous, Yoho, ça nous est arrivé au début. Ça marchera jamais un jeu qui demande obligatoirement un téléphone pour jouer. C'est obligatoire, c'est pas un ajout, c'est pas un petit truc en plus ou un aide ou non. Et grâce à des jeux, Unlock a fait un gros carton et donc maintenant le distributeur dit c'est bon, je sais pas les chiffres, mais si eux ils en ont vendu 800 000, ça va. Donc les gens visiblement, c'est plus un frein maintenant. C'est pas un avantage, c'est plus un argument marketing en disant regardez le premier jeu avec un téléphone portable. Maintenant c'est marqué en petit en bas, nécessite une application gratuite. Voilà. Je trouve que c'est bien en fait. Je trouve qu'on est mieux. C'est ni trop ni pas assez. C'est juste, je sais pas, c'est comme n'importe quel jeu, nécessite des yeux et, enfin, tout, ouais, non, mais genre, nécessite des gens, non, des amis, ça c'est plus compliqué. Voilà, jeu de société, nécessite au moins deux amis, voilà. Et, c'est sur la boîte, donc c'est, maintenant c'est à peu près, c'est rentré dans on est à une certaine maturité, on va dire. Et pareil pour les jeux, là, moi, que je vois pas mal, où le contraire, j'ai pas joué à Chronicle of Crime, j'ai vu le proto, mais j'ai pas vraiment joué, donc je peux pas savoir, mais où là, les projets qu'on nous propose, nous, c'est bien, enfin, c'est justifié. C'est-à-dire à chaque fois, les auteurs disent, voilà, l'apport du numérique, c'est vraiment ça, et voilà ce que ça apporte d'essentiel. Et la question, c'est, et s'il n'y était pas, bah, le jeu, il n'existerait pas. Donc là, c'est une bonne réponse. Alors que si, comme tu dis, on pourrait se débrouiller, en fait, si on rajoute 3 cartes, et je dis n'importe quoi, il y a un livret, bah, ça remplace le téléphone. Tu dis, bah, on va faire 3 cartes et un livret, parce que c'est quand même plus simple au niveau de l'usage.
Il y a même un aspect qui, moi, me rebute, enfin, qui me rend fou, mais c'est très personnel. C'est typiquement le QR code. Le QR code, quasiment personne n'utilise dans la vraie vie. On a essayé de nous en foutre partout pendant un moment donné. Il y a quelques-uns qui utilisent vaguement. Mais quand tu induis un QR code à l'intérieur d'un jeu, et donc du coup pour transformer quelque chose de physique avec une passerelle numérique, il faut que ce QR code il ait un sens dans ton jeu et pas que juste ce soit ta passerelle parce que t'as pas réussi à le faire autrement et que tu veux pas demander à quelqu'un de taper un URL. Et notamment, ça fait tellement d'années qu'on est capable de faire de la reconnaissance d'image facilement pour pas avoir à avoir ce putain de QR code qui est immonde en général dans les jeux. Moi, ça me rend fou, quoi. Donc cette passerelle-là, je veux bien, mais il faut bien considérer qu'est-ce qu'on a en main, est-ce qu'on a du numérique et pourquoi on l'a, et quel est l'objet dans notre narration qu'on a et comment tu fais la passerelle, quoi.
Alors moi, j'avais une question pour vous deux, là, qui êtes des experts du monde hybride, parce que j'ai pas de réponse à ça, mais c'est une question que vous vous posez pas forcément, mais qui pour nous est cruciale en enseignement. C'est qu'en enseignement, il y a une nuance avec eux, c'est que eux, l'acheteur, bah, ils choisissent s'ils l'achètent ou pas. Nous, en enseignement, ils ont pas le choix, les étudiants. Voilà, ils sont condamnés. Donc il y a une dimension d'inclusivité, enfin je sais pas comment le dire, qui est qu'à un moment donné on s'adresse à des publics, et nous on s'adresse à des publics dont certains sont pas du tout joueurs, hein. Moi je suis joueur à fond, hein, les petits cubes allemands machin j'adore, vous deux vous êtes des super joueurs, je vois ce genre de trucs, il y a certains de nos étudiants et nos étudiantes qui pètent les plombs en voyant ça, en se disant quelle horreur, on est dans le monde du geek pur, du nerd pur, déjà on en a beaucoup en physique, mais là c'est la dimension ultime. Et donc moi j'ai quand même cette hésitation qui est qu'on les embarque dans une aventure ludique, et donc ma question c'est, est-ce que le jeu hybride, ça change absolument rien ce problème-là, c'est-à-dire soit on a une culture jeu, soit on l'a pas et il va y avoir quand même ce truc-là, est-ce que ça aide ou est-ce qu'au contraire on empile le truc parce qu'on emmène en plus la culture numérique à la culture ludique, donc les deux trucs de geek nerd qui excluent encore plus les autres et qui font que quand tu fais référence à la machine de 1972 machin et tout, ça écœure encore plus ceux qui ne sont pas là ce soir en gros. Donc je me demandais ce que vous pensiez vous. Ou est-ce que, des jeux où les joueurs auraient pas le choix, est-ce qu'on va virer une partie du public en fait sans le vouloir, parce que on est au niveau geek puissance 100.
Alors, j'ai eu cette question puisqu'on a fait on en fait rarement des serious games, mais là on en a fait un pour Michelin, pour tout vous dire. Je peux pas vous le montrer parce que bien sûr, c'est confidentiel. Mais là, il y avait 1002. Alors, une agence en fait a vu. On a fait un prototype. C'est la suite de Yo-Ho, pour tout vous dire. C'est vraiment un prototype, hein, mais où en gros c'est un jeu de cartes. Sauf que on joue à plusieurs, c'est coopératif, mais vous avez une sorte de maître du jeu, c'est le téléphone, comme là, vertical, et en fait, on joue en montrant les cartes à la caméra, et comme tu dis, il n'y a pas de QR code, on reconnaît la carte, et donc on sait que le joueur 1 a joué la carte, je sais pas quoi, dinosaure, et l'autre perroquet, et donc à partir de là, se déclenche génération, et c'est comme un livre dont on est le héros, bon bref, donc on est en train de le tester, donc ça, je sais plus qui l'a vu. Et bref, on se retrouve dans une agence. Ils nous disent, voilà, on va faire un serious game. C'est le top management de, j'allais dire de Disney, non, mais de Michelin, c'est pas pareil. Je sais pas, ils sont 200 000. Hein. Michelin, c'est une énorme boîte dans le monde. Et ils rassemblent tous leurs managers du monde entier. Et ils disent, voilà, il va y avoir donc 140 tables de presque 8 personnes, exactement. Et ce que l'on veut dans cette session, donc c'était 2 jours au Carousel du Louvre, mais la première matinée, on veut que ces gens discutent entre eux. Voilà, c'est ça le but. Le jeu, c'est en plus, ils vont rien apprendre vraiment, mais on veut qu'ils discutent. Et donc vraiment, à une table, il y avait un Texan, un Japonais, un mec de Clermont-Ferrand, et voilà. Donc, il fallait que ces gens puissent discuter. Donc, on a créé un jeu, et en fait, en montrant tout ce qu'on faisait, on a fait ce type d'interaction, c'est-à-dire qu'il y avait une tablette, un grand iPad Pro, pour tout vous dire, donc 140, il faut les trouver d'un coup. Et ça durait 1h30 quand même, et c'était un jeu où on vous posait des questions et vous aviez des cartes, des grosses cartes, et il fallait, et donc là ça a marché parce que là on n'avait vraiment pas des gamers, c'est-à-dire qu'il fallait pas, il fallait dédramatiser le truc, parce que si tu arrives, voilà, comme tu dis, un gros jeu de plateau avec plein de pions, des trucs comme ça, les gens ils font écoutez, là je suis en décalage horaire, j'arrive je sais pas quoi de Tokyo, donc là par contre on leur avait fait des grosses cartes. Donc c'était vraiment plutôt un jeu de cartes. Ils avaient une tablette mais qui était cachée au début. Donc on l'avait scénarisé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une animatrice. Alors moi j'étais à côté pour voir si tout se passait bien, mais en fait sur 140 tables, c'est un peu compliqué. Donc ils ouvraient ça, ils voyaient une tablette qui était déjà allumée et puis on leur disait en tutoriel, bah prenez la carte 1, il y a marqué start, passez-la devant la tablette. Et là, il y avait une animation qui se déclenchait, puis il y avait des écrans qui expliquaient comment ça allait marcher, mais là, ça a bien marché. Alors là, c'était un crash test, c'était de l'événementiel, on n'avait jamais vraiment fait ça en vrai. Alors techniquement déjà, et surtout il y a 1200 personnes non gamers qui jouaient à ça pendant 1h30. Alors je vous en parle parce que je suis content, ça a marché. Mais je peux dire que comme tu dis, là, j'ai flippé, et de toutes les langues, hein. Vraiment. Et en fait, ça s'est bien passé, mais justement parce qu'on avait testé avant, mais le fait de prendre une carte, d'abord, toutes les questions étaient sur les cartes, les réponses étaient sur les cartes, donc il fallait lire, c'est des grandes cartes qui étaient illustrées, et donc toutes les décisions se prenaient d'un commun accord en discutant, et après, quelqu'un passait la carte devant l'écran, mais c'était vraiment un geste naturel et instantané. Et personne, enfin, il y a deux, trois qui ont essayé de comprendre technologiquement comment ça se passait, mais on disait pas qu'il y avait de caméra, enfin, il y avait un petit retour vidéo, mais plein, il y a des gens aussi qui posaient la carte sur la tablette croyant que c'était tactile. Mais en fait, le geste était vraiment naturel et ça s'est très bien passé. Donc c'est pour ça qu'on continue le jeu, parce qu'on s'est dit, tiens, si des non-gamers entre 50 et 70 ans n'ont pas eu de problème d'ergonomie et ont pris du plaisir, visiblement, parce que le jeu était pas, enfin, nous, il n'était pas extraordinaire, mais ça leur a vachement plu. Parce que le contenu, c'est un contenu de Michelin. C'est-à-dire que là, c'était la narration, ça les a passionnés parce que c'était des problématiques à eux. Donc, moi, la conception de pneus, des choses comme ça, la distribution, les usines, qu'est-ce qui se passe et tout. Avec Julien, le développeur, puis les gens de l'agence avec qui on a créé le jeu, on était là, bon, il marche, mais il nous excite pas énormément. Par contre, eux, ils étaient à fond. Donc ça, c'était bien. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'au niveau ergonomie, ça s'est passé vraiment comme sur des roulettes. Il n'y a pas eu de problème majeur. Alors, sur 1200 personnes, il y en a toujours deux qui n'ont pas compris, mais sinon, ça allait bien. Donc là, c'était un bon test. C'était vraiment un test. On leur avait pas trop dit à l'agence que, enfin, ils savaient que c'était nouveau, mais c'était vraiment très bien. Et donc là, c'est pour ça. Et là, par contre, la seule interaction qu'on avait avec la tablette, c'était juste, on pouvait pas toucher, on pouvait rien faire. On avait tout bloqué. Il y avait pas de touch ni rien. C'était juste passer la carte de ton choix à partir d'une question. Ta réponse, tu la mettais là-dessus et là, ça marchait bien. Donc là, c'était bien parce qu'ils avaient pas trop de choix. Donc c'était très dirigiste, mais ça marchait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on continue là-dessus. On verra dans l'année prochaine à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, l'interaction là était la plus naturelle possible, en fait.
Et la question que ça pose par rapport à la question que posait Julien, c'est est-ce que le fait qu'il y ait cette tablette et ce geste qui est en fait très très simple, est-ce que ça a rajouté un appétit des gens, une libération des gens pour aller vers le jeu?
En tout cas, il y avait la surprise, parce que c'est toujours ça. C'est parce qu'il y a des grosses discussions. On avait rajouté un timer pour mettre de la pression. Donc, en gros, puisqu'il y avait des questions pas très cool, en fait. Des questions vraiment de business dur, en fait. De trucs qu'on se dit, mais waouh. Mais est-ce qu'on ferme une usine, par exemple? Vous voyez? Ces trucs, comment ça se passe? Voilà. Ils étaient vraiment sur des cas concrets. Et des gens qui l'avaient vécu. Nous avaient dit dans le test, ben, ça, je l'ai vécu en Irlande. Il s'est passé ça. Non, comment je gère ça? Ou là, ils avaient un appel d'offres fictif, mais en fait, qui est vrai. Tout le monde le savait. Mais sur les futures voitures électriques et, voilà. Et donc ils avaient des vraies questions, donc il y avait vraiment ils discutaient beaucoup autour de la table et il y avait un chrono, et à un moment donné ils avaient vraiment 30 secondes pour donc en gros toute le sel du gameplay c'était sur la pression, et tout d'un coup par exemple ils avaient des événements, ils croyaient avoir 10 minutes pour répondre et tout d'un coup bam, le client, c'était pour l'appel d'offre, crevaison, mais là c'était le client veut votre réponse dans la semaine parce qu'en fait il y a un autre concurrent, je sais pas quoi, donc il fallait aller très vite, donc ça marchait bien. Par contre c'est ça, le geste c'était juste mettre la carte, et je crois que c'est ça qui marche, c'est la simplicité, et c'était pas surtout pas geek. Enfin voilà, je te dis, même la tablette était cachée au début.
Et l'immédiateté.
Exactement. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça, surtout, c'est ça. Quand je dis, je sais pas quoi, je décide de refuser, par exemple, à répondre à cet appel d'offres, il y avait cette possibilité, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et après, juste pour finir, ce qui intéressait beaucoup l'agence et surtout le groupe de Michelin, c'était on avait traqué toutes les réponses qui avaient été données. Alors, c'était anonymisé aussi, bien sûr, mais c'était marrant parce qu'à la fin, ils avaient un graphe et qui leur montrait s'ils avaient été plutôt, people, en fait, proches des gens, en fait, en tout cas, ils sont occupés des gens, plutôt de la technique ou du business, voilà. Et en gros, l'idée à la fin, c'était qu'ils aient une forme assez régulière et pas trop que business et pas technique ou pas people. Enfin voilà. Donc c'était intéressant à la fin parce qu'ils avaient quand même, ils étaient contents de voir le résultat en fait. Dire tiens, mon heure et demie de discussion, il y avait des pauses hein, et tout, mais mon heure et demie de discussion et de travail, presque du travail autour, qu'est-ce que cela reflète de notre groupe? Voilà. Et là où c'était gagné. Que ça a bien marché, c'est qu'ils ont vraiment discuté. C'est-à-dire qu'ils étaient passionnés par ces questions sur et ils partageaient leur expérience. Moi, aux États-Unis, je peux faire ça, mais pas ça. Moi, en Inde, je fais ça. On a fait ça. Voilà. Donc ça, c'était intéressant. Mais je pense que le fait que ce soit bien passé, c'était que l'interaction soit monocanal, en fait. C'est juste une carte. Voilà. S'il avait fallu cliquer, parler, secouer la tablette, enfin, on peut imaginer des milliards de trucs, ça aurait été trop complexe. Et justement, ça aurait passionné les geeks, mais là, c'était le contenu qui primait sur le jeu.
Et moi, je vais vous répondre d'une autre manière. typiquement, ça c'est un point auquel on est confronté aussi régulièrement, du public qui veut pas, enfin qui est pas là pour jouer, qui est pas gamer, et donc du coup comment tu fais pour l'accrocher. Et j'ai trois axes. Bon, le premier qui est évident mais que je ne prône pas, c'est l'effet waouh d'une situation. Typiquement, quelqu'un qui a jamais utilisé de casque réalité virtuelle et que tu mets un casque de réalité virtuelle, il va se retrouver ailleurs, il sera content d'avoir testé un truc qu'il a jamais fait. Mais c'est pas le bon moyen de l'accrocher, quoi. Pour moi, les autres points, c'est donc, j'en parlais déjà tout à l'heure, la narration. Faire en sorte qu'en fait, t'aies un rôle à l'intérieur. C'est pas forcément un rôle énorme, mais si t'es, si t'as un groupe de 15 personnes et que le groupe peut très bien tourner à 14 et que toi t'as pas envie de jouer, du coup t'es pas impliqué à l'intérieur. T'as pas besoin de t'impliquer. Alors le but, c'est de forcer, ça va pas fonctionner, parce qu'il va se sentir vraiment obligé, mais se rendre compte qu'il peut apporter quelque chose que les autres n'apporteraient pas, ça c'est un des leviers qui pour moi fonctionne bien. Et l'autre, c'est l'art et la poésie, je dirais. En fait, taper sur d'autres secteurs. Tu veux diffuser un contenu ou accrocher les joueurs, enfin les faire venir d'une certaine manière. Il y a ceux qui, tu mets un hardcore gamer sur un jeu expert ou une énigme. Typiquement, on a eu des discussions là-dessus. Moi, j'adore les énigmes. Tu mets une énigme, je vais plancher dessus jusqu'à ce que je la trouve. Ça me prend 3 mois. Je vais passer 3 mois à être obsessionnel dessus, à trouver la solution. Il y a plein de gens, ça les fait chier, les énigmes. Ils y arriveront pas, ils seront pas accrochés par ça. Donc, faut trouver d'autres leviers. Et notamment, donc évidemment, il y a des leviers de gamers différents, mais il y a également des leviers de non-gamers. Et des interactions de type... alors après, là, je parle de techno parce qu'on est sur de l'hybride. Mais encore une fois, on met des vidéoprojecteurs partout, on projette au sol et selon où on est, on va pouvoir faire un jeu. On peut le rendre également par le graphisme et l'histoire qu'on raconte, quelque chose qui est très poétique. Et on va vouloir rentrer dans cette histoire ou rentrer dans cette interaction. C'est même pas forcément une histoire. Et donc du coup, lier des champs qui ne sont pas que du jeu à des champs de l'écriture, de la musique, de l'image ou autre. À mon avis, ça c'est... en tout cas, c'est des leviers que moi qui me plaisent beaucoup, quoi.
L'heure tourne. Quand on a préparé cette table ronde, on a essayé de regarder un peu ce qui existait en termes de recherche sur le jeu hybride, non pas le jeu hybride utilisé dans le cadre de la recherche, mais la recherche sur le jeu hybride. Et on a trouvé vraiment très peu de choses. Alors est-ce que vous savez pourquoi déjà, et est-ce qu'il y a des choses que vous espérez qu'on puisse investiguer en termes de recherche sur ce sujet à court ou moyen terme?
Alors, moi j'en ai, mais c'est des documents de Ravensburger, de Hasbro. Alors c'est... Ils font travailler c'est pas vraiment de la recherche universitaire, mais c'est des documents qui essayent d'analyser tout ce qui, en fait, c'est vraiment du business, là, mais tout ce qui est sur le marché. Par exemple, j'en ai eu un de Ravensburger, qui était intéressant parce que il y a plein de trucs que tu connais pas et qui analyse vraiment d'une manière, tac, tac, voilà les mécaniques, voilà ça, voilà, quel est alors eux, c'est le coût de revient, le prix, enfin, voilà des choses comme ça, mais c'est assez intéressant. Chez Hasbro aussi, on en avait eu pas mal, des études. Moi, j'en ai vu chez les universitaires en Nouvelle-Zélande où des gens travaillaient justement sur le... C'était un groupe de recherche que sur le téléphone portable et ils avaient pris le jeu comme axe de recherche, mais ça aurait pu être autre chose, et ils avaient analysé tout ce qui était jeu géolocalisé. Ça, il y avait pas mal d'études, donc sur Ingress, après Pokémon Go et tous ces jeux, et avec des vraies analyses sociologiques, et pas du tout techniques, hein, vraiment. Ça, c'était vraiment passionnant à lire, parce que là, ils étudient vraiment les datas, les fonctionnements, les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Après, je ne sais pas si c'est vraiment une niche quand même. Enfin, en événementiel, de fait, c'est hybride, en fait, on va dire. Enfin, t'as un mélange souvent de vidéo mapping, de tracking, enfin, plein de choses. Dans mon domaine, dans le jeu de société, on va dire, c'est beaucoup plus, c'est tout petit. Enfin, c'est une petite niche. Voilà, c'est un petit truc dans un coin qui, je pense, va se normaliser. En fait, c'est plutôt ça la bonne surprise. Mais donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas un champ. Bah déjà, le jeu de société en recherche, je pense pas qu'il y en ait. Enfin, ça existe, mais c'est très très rare, hein, surtout en français. Enfin, j'imagine. Déjà les jeux vidéo, hein, en recherche française, hein, y a les game studies aux États-Unis qui se sont beaucoup développés. En France, ça arrive, mais il y en a sur le métal. J'ai vu il y a pas longtemps. Il y a des recherches sur le métal. Hein, c'est rigolo. J'ai entendu ça à France Inter. Là, voilà. C'est génial. Voilà. Donc des chercheurs sur le métal qui ont les mêmes problématiques visiblement que le jeu vidéo, que le jeu de société, qui ont du mal à faire accepter leur recherche dessus. Mais c'est vrai que c'est pas énorme. Enfin, moi, ce que j'ai vu de mon côté en faisant des petites recherches, c'est plutôt des gros distributeurs ou industriels ou éditeurs qui font une analyse du marché, en fait. Donc, qui regardent tout ce qui s'est passé. Même j'avais vu un truc sur les jeux en grandeur nature et tout. Vraiment pour avoir un champ pour des gens non connaisseurs qui disent voilà, actuellement, en 2005 ou 2015, voilà tout ce qu'il y a. Et tout ce qui va arriver. Moi, j'ai pas mal travaillé pour des gens. Il y avait Orange et il y a des gens aussi avec un gros A là, avec Amazon par exemple, où c'est plutôt dans l'industrie du luxe, mais des choses qui ne sont jamais sorties. C'est-à-dire qu'ils te font plutôt travailler sur des... Mais ça, tu le sais pas au début. Maintenant, je suis assez vieux, je suis au courant. Ça sortira jamais, en fait. Ils le savent. Mais c'est pour faire réfléchir leurs équipes en interne. C'est-à-dire qu'ils font venir des gens externes. Ils disent, voilà, on a... Je dis n'importe quoi. On a cette bouteille d'eau qui est capable de chanter. Bah, génial, voilà. Ouais. Bah, vous pouvez nous inventer un jeu dessus. Et en fait, c'est plutôt une mécanique pour montrer aux ingénieurs, aux autres designers, même au marketing, enfin, à tous les gens, ce qu'on pourrait faire de différent. Mais le but n'est pas de sortir le jeu. Voilà. Maintenant, je suis au courant, donc je me fais plus d'illusions. Mais c'est une bonne mécanique créative, en fait. En fait, ils se servent du jeu comme mécanique créative. Ça, c'est un truc, enfin, assez passionnant. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusé. Après, bon, quand ça sort pas et vous avez pas le droit de le montrer, vous êtes un peu vert. Mais bon, à chaque fois, ça se retrouve ailleurs après. Hein. C'est pas, c'est dans sa tête. Et, hein, c'est classique, voilà. Donc, on continue. Mais c'est plutôt ça, ouais. Par contre, en recherche pure, je sais pas, document universitaire, enfin, voilà, recherche universitaire dans le domaine du jeu.
Rien
société,
du
ouais.
tout. Donc il y a des recherches sur le jeu effectivement. Moi j'ai pas vu grand chose de ce côté-là, mais j'ai peut-être pas assez cherché. Il me semble qu'il y a des choses intéressantes qui ont été écrites dans un truc qui a priori rien à voir, mais je pense qu'il y a pas mal de résonance. C'est dans le monde muséo. Et il y a eu notamment des tas d'études sur le rôle d'un objet tangible dans un musée, un objet qu'on peut balader, qu'on peut bouger, plutôt que seulement le prendre en photo. Et je pense qu'il se pose un certain nombre de questions qui peuvent être semblables. Dans le monde des sciences infocom, plein de questions se posent aussi sur voilà le médiateur, l'objet, le machin, etc. Et donc, il doit y avoir des choses intéressantes de ce côté-là, mais j'en sais absolument rien. Donc, évidemment, ça serait un champ formidable à étudier. Nous, notre porte d'entrée de l'enseignement, elle peut peut-être attirer des gens, mais je sais pas si c'est les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut penser au champ de la didactique ou à d'autres champs. Je suis pas sûr que c'est ce champ-là qui ait les choses les plus pertinentes à dire sur ces enseignements hybrides, à mon avis. Je pense que des gens peut-être du côté des sciences, du design, ont des choses plus originales à dire sur ces questions-là. Mais nous, on est en recherche de programmes de recherche sur ces questions-là parce que, évidemment, vu que nous-mêmes, on est scientifiques, on aime bien le côté académique de comprendre ce qu'on fait. Donc nous, à chaque fois, on fait plein de petites enquêtes nous-mêmes qui servent à rien à personne, mais qu'on documente très sérieusement et tout, des verbatim, des débriefings, enquêtes avant, après et tout. En se disant, le jour où on trouve des chercheurs intéressés par ça, au moins on a la matière et on ne l'a pas laissé passer. Et donc ça, par contre, je pense que c'est vraiment important pour toute personne qui veut aller expérimenter dans ces nouvelles formes de jeux, d'enseignement, etc., de le documenter proprement, de le tester avant, après, de faire des questionnaires et de prendre le plus de data possible pour essayer de comprendre ce qui se joue dans ces approches-là, le temps du débriefing avec les étudiants, ce genre de trucs. Et on passe beaucoup de temps à ça, mais en n'ayant pas des choses très pertinentes, nous, à dire dessus, et en attendant qu'il y ait des chercheurs un peu éclairés pour nous aider.
Bon, moi, j'en connais pas non plus de manière pure, mais on a quand même typiquement au CRI, nous, on a deux approches. Par exemple, on a quelqu'un qui est en train de travailler pour faire un travail de recherche pour savoir si le dernier jeu hybride qu'on a fait fonctionne et est-ce que ça serait mieux qu'il soit pas hybride ou est-ce que la transmission de connaissances existerait vraiment. Mais c'est une recherche qui est très locale. Elle fera peut-être après un papier dessus, mais en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose qui est très local. Toutes les expérimentations technologiques qui mêlent donc des objets physiques, du déplacement, de l'humain, de l'interaction sociale avec de la technologie ou des technologies émergentes, ça c'est le travail de recherche qui est fait ici. Mais du coup, c'est pas une recherche sur l'hybridicité, c'est hybridicité, ça marche très bien ça. mais en tout cas, c'est donc du coup il y a de la recherche qui est autour, mais là-dessus je ne sais pas. En revanche, c'est vrai qu'en muséo, je connais pas de chercheur qui est fait à part. Parfois, mais non, c'est plus de la recherche sur le public que j'ai vu, mais sur les objets développés en muséo spécifiquement, c'est plus des retours d'expérience, de conférences. Parfois, il y a un papier qui est écrit, mais c'est pas un papier académique, qui est quelque chose qui traîne, mais qui va tourner entre les personnes de muséo. Et j'ai un exemple. Vas-y, c'était une question, mais j'ai un exemple d'un truc qui était splendide sur le papier, qui a été fait et qui a pas marché. Il y a eu un beau papier qui avait circulé pour expliquer pourquoi ça avait pas marché. C'était sur l'exposition épidémique à la Cité des Sciences il y a 11 ans, je crois, ou pile 10 ans. C'est de la vidéoprojection sol et mur, avec tracking, avec de l'infrarouge à l'époque. Donc c'est vraiment de la vieille techno il y a 10 ans pour faire ça, de tous les individus qui sont à l'intérieur. Et en gros, on a une barre de vie autour de nous, on a des médicaments qu'on peut aller prendre à droite et à gauche. On a des états de crise qui se sont projetés avec un virus qui s'est propagé et il faut survivre dans cet environnement-là. Technologiquement, pour l'époque, c'était vraiment bien foutu. C'était un grand espace, on pouvait jouer à une trentaine de personnes, ça s'adressait à tout public. Donc sur le papier, avec de la vidéo, il y a un scénario qui marchait bien. Sur le papier, ça avait l'air d'aller. À part qu'ils ont fait une erreur qui est absolument phénoménale, mais pas avec le recul, et donc qui a été analysée et qui a circulé derrière. C'est... Technologiquement, c'était parfait, ça avait tous les codes du jeu vidéo, donc tous les gamins ils rentraient dedans, ils couraient, ils avaient des boucliers, ils prenaient des, 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 des médicaments et choper des virus, etc., ça fonctionnait très bien. Par contre, c'était tellement jeu vidéo que comme le public, c'est parents-enfants, typiquement dans les musées, les parents, ils comprenaient que dalle, ou les grands-parents ne comprenaient que dalle, donc ils ne rentraient pas dans le jeu, ils n'avaient pas les codes du jeu vidéo pour. Et le scénario était extrêmement bien fait en termes de réalisme et de contenu, avec des épidémies qui se propageaient à travers le monde, mais tellement réaliste au niveau contenu, qu'en fait, les parents comprenaient ça et s'y intéressaient, mais les enfants n'avaient rien à faire du contenu qui n'était pas du tout en accord avec le côté ludique. Donc, l'alignement qu'on avait entre le contenu et le ludique ne marchait absolument pas, et ça a été ça a tourné une expo tempo, ça a duré quasiment 9 mois ou 6 à 9 mois. Généralement, les gens se sont bien amusés, mais ça n'a pas fonctionné. Et ce retour là-dessus pour savoir pourquoi et de se rendre compte, alors là, ça vous paraît évident quand je vous le dis comme ça, mais sur place, on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a des choses qui tournent, mais c'est pas de la recherche académique. Et donc peut-être qu'il y a, mais moi typiquement je connais pas. Donc si vous avez des liens, je suis preneur.
Juste, je rebondissais sur ce que tu disais sur le fait de s'adresser à différents types de publics. Nous, la bonne surprise qu'on a eue, c'est que dès que vous mettez une tablette et un écran, alors là les enfants ils arrivent à fond dessus. Et alors les parents font encore des jeux vidéo. Et puis tout d'un coup. Ils s'aperçoivent que nous, nos jeux, on n'est jamais tout seul devant l'écran. L'écran est à plat, horizontal, donc on est autour. Plus, il y a souvent des objets physiques. Et là, les parents font « Ah !» Enfin, on voit le sourire qui disent « Ah, d'accord, c'est pas un jeu où il va s'isoler et tout. » Alors on dit « Non, non, on est plutôt jeu de société. » Donc ça, c'est intéressant aussi, cette ambivalence. Donc ça va attirer les enfants, le fait d'avoir un écran. Et puis les parents vont rassurer parce que le jeu de société a toujours bonne presse. Il y a ce côté pédagogique, société. En fait, ils vont pas être tout seuls devant l'écran, même s'ils sont en ligne des fois à jouer à Fortnite et compagnie avec leurs copains. Donc c'est intéressant ça, c'est qu'on arrive à avoir les deux publics. Alors par contre, ouais, après, il y a des codes. Voilà, faut toujours bien gérer ça. Mais nous, on est plutôt pour les petits, donc les parents arrivent à maîtriser encore. Mais ça, cette ambivalence, là, c'est deux zones. Voilà. Et nous, c'était pas fait exprès, mais la première fois qu'on est sur un salon de jeux vidéo qu'on a montré ça, ou pareil, moi j'ai la chance de présenter souvent mon travail. Vous savez, à l'école, les maîtresses ou les maîtres disent bon, vous faites un métier rigolo, vous pouvez venir présenter chaque année. Au début, je vois les maîtresses, je fais des jeux sur tablette, ils me voient sortir des tablettes, j'ai le mauvais œil. Et après, en fait, on met plein de trucs en papier sur l'écran et tout. Et ça les intéresse beaucoup, elles connaissent pas. Je dis elles, parce que c'est souvent des femmes là, mais. Donc il y a ce côté, surtout avec les enfants, les tablettes c'est le mal, il faut faire attention et compagnie, mais dès que vous leur montrez après, ils sont pas tout seuls devant l'écran par exemple, ça marche bien. Voilà. Le coopératif en physique, je veux dire, ça c'est un gros, j'ai pas dit au début, mais ça c'est un énorme avantage, c'est-à-dire qu'on est à trois, voilà, moi ce que j'ai appris c'est le regard, c'est-à-dire qu'on est un jeu vidéo, mais sauf que quand je lève les yeux, je te vois sourire, et je fais pourquoi il me sourit maintenant alors que je viens de poser ce pion à gauche, voilà. Et ça c'est quelque chose qu'on peut très très difficilement à voir en jeu vidéo. Il y a plein d'autres possibilités, mais c'est très facile à faire en fait. Voilà. Comme un jeu de cartes, vous posez la carte en rigolant, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc c'est des mécanismes qui sont... dès qu'on est en mode avec des vrais individus, des vrais êtres humains autour de la table, il y a toute une sorte de métagame qui se met en place et qui peut être assez facilement mis en place, en tout cas en tant que game design, alors que si on est en pur numérique, c'est extrêmement compliqué.
Non, je me souviens juste d'études, mais si ça se trouve, ça n'a absolument aucune pertinence, qui avait été faite, une thèse qui avait été faite sur les musées, donc rien à voir avec les jeux hybrides, et est-ce que, en gros, mettre un peu d'interface numérique, d'iPad, de machin et tout, par rapport aux cartels habituels dans les musées, ça changeait quelque chose, notamment sur le rapport à la sociologie et au public, est-ce que ça ségrège et tout, et il se passe absolument rien, tout est pareil. Donc j'ai une tendance naturelle à penser que ça révolutionne pas nécessairement tout, qu'en tous les cas il faut pas se laisser avoir à penser qu'on va tout métamorphoser en faisant de l'hybride ou de l'augmenté ou autre, voilà.
Ça change un truc énorme qui est la maintenance, l'actualisation des langues, etc. Mais pour le public, en effet, si c'est au mur et que c'est pas à la main, ça change strictement rien aussi.
C'est un peu une triste conclusion pour cette heure et demie de débat, donc je vais réouvrir la question.
Ça sert à rien.
Donc le jeu hybride, on en a tous parlé. Demain, on voit que c'est encore un terreau, une terre d'innovation. Il y a plein de choses, ça évolue tous les jours. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous attendez avec impatience pour le jeu hybride demain ? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous voyez arriver qui sont à nos portes ? Faites-nous rêver un peu là.
J'espère que je vais vous faire rêver. Je vais vous montrer les derniers joujoux sur lesquels on travaille là cet été. Il y a une chose aussi que je voulais dire, c'est qu'on est nous, je parle vraiment à la Volumique parce que nous, on est sur le grand public et des jeux qui se vendent dans le commerce. On est dépendant d'Apple. Et je dis vraiment Apple. Si Apple dit, il n'y a plus de NFC, il n'y a plus de NFC. Si, par exemple, Apple, maintenant, reconnaît automatiquement les QR codes. Pendant 10 ans, ils ne reconnaissaient pas automatiquement les QR codes. Donc, nous, pas de QR code. Alors, en plus, en tant que graphiste, c'est vrai que c'est un peu prégnant comme image. Et les Android qui le faisaient, maintenant, plus. voyez, et en fait, c'est Apple qui donne le là. Alors, Apple, c'est que 20% du marché, mais c'est 80% des gens qui payent. Donc, c'est simple. Hein. Nous, pour enfants, par exemple, on ne veut pas mettre de pub. Le marché sur le téléphone Android, ce n'est que la pub parce que personne achète. Même un jeu à 10 centimes, mais zéro. Hein. C'est vraiment... Donc, ils sont obligés de trouver des manières de gagner de l'argent différemment. Donc, de la pub, du partage de données, des choses comme ça. Apple, on a... c'est pas que je suis fan d'Apple, hein, mais c'est juste... On voit la différence. Donc, nous, on est, si Apple décide que tout d'un coup, il n'y a plus... Par exemple, ils voulaient arrêter le support haptique ou les vibrations. Bah, en fait, bon, bah, fini les jeux avec la vibration. Donc ça, c'est un des gros paramètres. C'est-à-dire qu'on est quand même très lié. Pareil, si Apple dit « Votre application, on n'en veut plus », on n'en veut plus, bah dehors, voilà. Et vous pouvez vous appeler qui vous voulez, c'est dehors. Hein. Ils l'ont fait pour Steam, là, par exemple, ou voilà, des boîtes énormes. Qu'est-ce que vous voulez, je sais pas comment, ils font 300 milliards par trimestre. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Donc c'est vraiment voilà. Donc nous,
du par positif.
Voilà. Non, mais ça c'était le truc. On va dire, on est obligé de suivre des règles et on est toujours en train de regarder les nouvelles règles. Par exemple, Apple là, si vous voulez des jeux pour enfants, maintenant il y a plus de tracking, c'est fini. On peut plus récupérer de données. Voilà. Bon, bah, voilà. Donc, pour nous, c'est pas très grave, mais il y a, pour des boîtes, c'est très important. Voilà, de ce qui se passe. Donc, en fait, ils mettent, et tous les trois mois, ils changent leurs règles. Donc, il faut toujours les suivre. Et si vous les respectez pas, c'est dehors. Donc, voilà. C'est, alors, dans les trucs positifs, en ce moment, il y a des trucs qui m'amusent bien, moi. Voilà. À haute voix. Alors, c'est un proto d'il y a un an, mais là, il est bien amélioré. C'est, en fait, j'ai un fils qui utilise beaucoup Siri, donc pas réalité augmentée ni rien, c'est la reconnaissance vocale. Et le text-to-speech, donc en français, le texte parlé, enfin, qui est écrit. Donc, et ça marche de mieux en mieux. Honnêtement, le système de Google et de Siri, même s'ils ont plein d'inconvénients, honnêtement, ça marche bien. Même maintenant, il me reconnaît en anglais, ce qui est quand même un exceptionnel. Voilà, je veux dire, là, on est très très loin. Non, il arrive à reconnaître un Allemand qui essaye de parler anglais ou un Français qui essaye de parler anglais. Voilà, il arrive à reconnaître. Donc ça, c'est très, très impressionnant. Donc nous, on a imaginé un truc tout simple. C'est pour les petits qui ont 5 ans, 6 ans, qui commencent à lire. Et vous voyez, c'est juste le proto, c'était le petit chaperon rouge. Ben, c'est tout bête. Il commence à lire. Il était une fois un petit chaperon rouge. Ben, en fait, quand il dit chaperon rouge, le chaperon rouge apparaît. Dans une forêt, la forêt apparaît. Il était dans un village, pouf, le village apparaît. Sa maman et sa mère grand étaient là et elles apparaissent. Donc, en gros, si l'enfant lit bien, en fait, on reconnaît pas la phrase, on reconnaît les mots, hein, juste mots-clés, comme ça, là, c'est 100% de réussite. Enfin, normalement. Et en fait, c'est l'enfant, donc là, c'est très dirigiste, hein, c'est une sorte de livre dont on est le héros, puisque des fois, on leur demande des choix. Et donc, ça marche comme ça. Là, il n'y a pas le son, mais vous croyez mon fils qui parle. Voilà, ça se passe comme ça, et ça marche très, très bien. Là, justement, on est dans une interaction minimaliste, c'est juste la voix, on ne touche jamais l'écran, j'essaye en ce moment, parce que même quand on dit page suivante, on dit page suivante. On peut aller en arrière, on vous pose des questions, tu veux aller à gauche ou à droite, bon, enfin là c'est plutôt tu veux suivre les chasseurs ou suivre les bûcherons, voilà. Et donc là on travaille dessus, c'est tout un système de collection. Donc là la seule interface là, alors là c'est pas hybride presque, enfin on a c'est plus hybride, c'est juste la voix. Voilà. Et à la fin, il peut s'amuser à les mots qu'il a appris, s'il les répète, s'il dit nuage, ben les nuages s'affichent et donc il va dessiner lui-même son illustration. C'est assez facile à mettre en place. Le système, on l'explique une fois, ben tout le monde a compris. Et maintenant, l'idée, c'est de travailler avec des illustrateurs et des scénaristes où à chaque fois, on demande, on fait des binômes. Donc moi, je fais le 1, pour tout vous dire, petit chaperon rouge, très original, mais il lui arrive plein d'aventures quand même. Par contre, après, voilà, on est en train de travailler avec d'autres personnes là-dessus et le retour qu'on a, donc on a commencé à faire des thèses. Donc par exemple, des gens de l'éducation nationale m'ont dit, parce que j'avais un peu peur, oui, parce qu'avec les tablettes, il y a toujours un rapport haine-amour. C'est-à-dire que les écoles ont beaucoup de tablettes, des fois, ou les médiathèques, par exemple, en France. Nous, par exemple, nos livres sont beaucoup vendus en médiathèque et bibliothèque parce qu'elles ont des tablettes, mais elles savent pas le contenu. Elles ont un gros problème de contenu francophone non violent. Donc il y a du Minecraft. Je sais pas si vous êtes allé dans les médiathèques, il y a du Minecraft partout. C'est cool, hein, Minecraft. Moi j'adore. Mais voilà. Donc nous on a notre petit succès en médiathèque et bibliothèque. Et je sais plus pourquoi je disais ça sur donc les gens de l'éducation nationale m'ont dit votre système est vachement bien, et j'y avais pas pensé. C'est que l'enfant là peut être seul devant sa tablette à lire et sera beaucoup plus moins stressé et décomplexé à lire mal. C'est vrai, je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai, parce que moi, le premier, je parle mal anglais. Parler anglais en public, ça me dérange. Je le fais, hein. J'ai déjà travaillé à l'étranger et tout, mais Mais je suis dérangé. Par contre, parler en anglais dans ma chambre tout seul, aucun problème. Et je suis sûr que je parle beaucoup mieux tout seul. Voilà, quand je répète, des fois, je répète des trucs. Et c'est tout le monde. Chacun, enfin, je sais pas si vous chantez sous votre douche, mais chanter en public et chanter sous votre douche, moi, je suis sûr qu'on chante mieux sous sa douche. Mais vraiment d'une manière objective. Et là, justement, les gens, les premiers tests qu'on a commencé à faire, c'est l'enfant lit mieux tout seul. Parce qu'il est pas jugé. Il sait très bien que devant, il a un ordinateur. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un projet que j'aime beaucoup. Puis il y a un autre petit projet. C'est un escape game, alors là, d'anniversaire, toujours pour les enfants. Alors là, c'est les 8 ans, 8-10 ans. Alors c'est proto-proto, mais là, on est très avancé, là, parce que là, ça y est, j'ai le scénario, enfin, là, on est en train de tester. Là, il y a une grosse problème technique, c'est qu'en gros, vous avez votre fils ou votre fille fait son anniversaire, il y a 6 ou 8 petits-enfants, vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous avez, nous, ce qu'on propose, là, c'est un proto, hein, ça, graphiquement, c'est rien du tout, mais c'est un petit kit d'anniversaire en carton, donc que du papier, que du carton. Les parents vont planquer des stickers à droite à gauche. Planquer, d'accord. Et ben, avant de prendre le jus d'orange ou le coca ou les bonbons, ben, on dit « je crois que quelqu'un veut te parler ». Et en fait, justement, on donne le téléphone. Donc, c'est l'adulte qui donne le téléphone à l'enfant. Donc, à partir de 8 ans, il n'y a aucun problème. Il sait très bien que ça vaut très cher et qu'il ne va pas le casser. Enfin, ça, il n'y a pas de souci. Et après, donc voilà, ça, on demande aux parents de le cacher. Alors, suivant le nombre de pièces, suivant le nombre d'enfants, voilà, il y a plein de paramètres. Et après, vous voyez, là, c'était notre premier test technique qu'on a fait il y a un an et demi, facile. Là, par exemple, les petits gobelets, ben, l'enfant lui verse son jus d'orange, ben, on lui dit, je crois que quelqu'un veut te parler. Et le téléphone est considéré, un peu comme tu disais, la lifeline ou en termes de mon amour, c'est que le téléphone a un rôle, c'est une lampe magique, en fait, et qui va te faire apparaître des personnages qui vivent autour de toi, mais que tu ne vois pas. Et d'ailleurs, on a fait des faux trous de souris. Donc là, il y a une sorte d'Aladin dans son gobelet. Et donc, dans chaque petit gobelet, il y a un truc différent. Et là, par exemple, il lui dit, là, par exemple, dans la boîte en bonbons, ben, s'il veut l'ouvrir, hein, l'idée, c'est qu'à la fin, les enfants ont des petits bonbons ou ce qu'on veut. Ben, pour l'ouvrir, il va falloir trouver le bon engrenage. Hein, c'est des principes d'escape game, on va dire classiques, qu'en papier. Et ce qu'on a fait aussi dans, donc ça, c'est vraiment juste les premiers prototypes, voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Par exemple, ce qu'on a vu, c'est que 100% des enfants appuyaient, tapaient sur le petit personnage. Mais j'ai fait quand même, ben, arrêtez. Donc maintenant, on a fait des animations où le personnage fait « arrête de m'embêter » et si on lui tape trop, il se casse et pendant 3 minutes, il revient plus. On a beau taper, voilà. Et après, ce qu'on a fait, vous voyez, là, on a fait dans l'atelier, on a mis, là, c'est la taupe qui vit là, on a fait plein de petits stickers. Alors, il y en a des verticaux, c'est des souris. Horizontal, c'est un hérisson ou une petite taupe qui vient vous parler. Voilà. Donc, et c'est caché à droite à gauche et les gens le voient pas. Donc, l'idée, c'est presque, on va voir si la démo sera même pas en print to play, en fait. C'est-à-dire que voilà, testez par vous-même, vous imprimez 4 petits trucs et il y a une petite aventure et surtout l'avantage du numérique, donc il y a le côté magique, c'est-à-dire que ces petites, en fait on est entouré d'animaux qui vont nous parler et surtout là, bah là les scénarios qu'on est en train de faire, bah si vous n'êtes, je dis n'importe quoi, s'il faut d'abord aller voir le chat avant la souris, bah le chat va vous le dire. Donc on arrive à bien, là on a fait des tests, on arrive à bien cerner où sont les enfants dans les énigmes, qu'est-ce qui se passe, et on a 50% d'énigmes papier et 50% d'énigmes, on va dire, numériques. Il y a des fois, il y a pendant, d'ailleurs il le dit, le magicien dit, ben, pendant 10 minutes, là c'est pas la peine de revenir me voir, je vais faire dodo. Et les enfants obéissent, ça c'est un grand truc. Non mais en jeu de société, les gens obéissent, ça c'est une grande découverte pour moi. Non mais vraiment, moi je viens plutôt du jeu vidéo, où les gens n'obéissent pas, ils vont essayer de trouver des glitches, essayer de passer à travers, si je clique là, je fais ça. Alors que dans le jeu de société, ce sont des gens bien éduqués et de toute façon tricher dans un jeu de société, enfin c'est ridicule. Enfin voyez, enfin vous faites exclure du groupe et les enfants le savent très bien. Ça c'est assez marrant. Là, la bonne surprise, c'est que techniquement, on a Google et Apple qui sont en compète en ce moment sur la réalité augmentée. Donc ils nous donnent des SDK, des trucs nouveaux tout le temps et tout. Bon, ils sont pas toujours bien. Donc par exemple là, vous voyez, j'ai 2 tags, on va dire. Si je donne le petit ballon au chat, il va être content, il va me donner un indice. Si je lui donne pas, ou la souris, là, par exemple, si je lui donne pas de fromage, elle va me dire non. Donc, suivant l'objet que je lui mets devant, elle va plus ou moins réagir. Voilà. Donc, ça, c'est plein de petits trucs comme ça. Là, c'est vraiment du proto-proto, hein. C'était juste pour tester. Mais maintenant, honnêtement, on teste automatiquement en scannant un peu comme ça. Il arrive à détecter les tables et les plans horizontaux. Enfin, maintenant, on a des outils qui sont de mieux en mieux. Par exemple, juste, je vais pas tout vous dire ce qui se passe, mais la souris, elle parle pas fort. Donc, les enfants doivent s'approcher pour l'écouter. Et il y en a qu'un qui peut l'entendre. Donc, on va lui donner qu'une info à un. Et après, ça sera à toi. Et pareil, ce qu'on a vu, c'est que l'enfant, et je termine là-dessus, les premiers tests, c'est quand, bah, j'ai testé avec mon fils et des copains à lui, bah, c'est mon fils qui a gardé le téléphone et les autres osaient pas le prendre parce que c'était le téléphone de son papa. Là, maintenant, au début, les parents ont dit, est-ce que donner les noms de tous les enfants? Et donc, c'est le petit souris qui va dire, maintenant, c'est à Valérie de jouer. Bah, en fait, l'enfant, il donne à Valérie. C'est assez drôle, il obéit. Ça, c'est vraiment toujours la grande surprise. Vous voyez, là, on a fait le test. Quand on clique sur le lapin, bah, il réagit, il fait non. Et alors, ça marche à fond, hein. Ça, c'est parce qu'il fait aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, je terminerai là-dessus. Donc, ça, c'est les projets sur lesquels on est. Et en fait, cet été, on fait que ça. On s'est donné 2 mois de notre vie où on a voilà 2 développeurs, 2 graphistes et tout. Et on fait le jeu là de réalité augmentée, on va dire, d'escape game. Et puis le jeu de, qui s'appelle à haute voix pour l'instant, où vraiment c'est des contes à lire à haute voix.
Sur l'avenir de la réalité mixte.
Réalité mixte.
Oui, il y a mixed reality. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça.
En fait, c'est ça. En fait, c'est un lapsus révélateur, hein, parce que c'est là-dessus que, parce qu'il y a plein de mots génériques en plus. Hein, on sait pas. Il y a l'hyper-réalité, la virtualité augmentée, la réalité mixte, etc. Non, moi, ce que je crois, c'est que j'avais pas réalisé avant cette discussion qu'on a eue ici, c'est qu'en fait, c'est je poussais sur le fait que lorsqu'on fait un jeu, moi, j'aime les jeux d'interaction. C'est pour ça que je suis beaucoup moins. Quand je crée un jeu, je parle avec du contenu, je suis beaucoup moins jeu tout seul sur son téléphone dans le métro. Si c'est la cible qu'il faut, parce que c'est un truc de 2 minutes et qu'il y a besoin, pourquoi pas. Mais j'aime bien que les gens se regardent et discutent entre eux. Et en fait, la discussion que j'ai là, enfin qu'on a eue ce soir, j'ai la sensation qu'en réalité, la plupart des jeux de réalité mixte, ça veut dire qu'on va rapporter une technologie ou une mécanique dans quelque chose qui est généralement plus réel. Et donc finalement, on amène des choses qui n'étaient pas forcément en interaction dans des choses qui sont... Enfin, je sais pas s'il existe des jeux de réalité mixte où on joue tout seul vraiment. Il doit y avoir, si on tape dans des jeux de réalité virtuelle, un petit peu élaborés ou autre. Mais globalement, il y a plein d'exemples où au final, c'est des gens avec des gens. Et donc, on sort de l'écran. Et donc, moi, mon espoir depuis longtemps, l'écran, pour moi, il faut le cacher depuis longtemps. Sauf s'il y a vraiment un besoin qui est très ciblé là-dessus. L'écran, s'il peut disparaître, il peut être là, hein, mais si la technologie peut disparaître, je préfère une vraie manette qu'on bouge plutôt qu'une manette virtuelle que je pousse du doigt sur un écran. Parce qu'on va avoir quelque chose de différent, une ficelle à tirer ou autre. Donc du coup, mon espoir, moi, c'est que ça disparaisse et que, en fait, on a plein de techno, on va pas y échapper, on va être dans des réalités mixtes partout, mais qu'on va être plus en train de se regarder plutôt que de regarder l'écran. Ça, c'est mon espoir du futur de la réalité mixte. Donc du coup, des jeux hybrides. On a dit du positif, donc on ne parlera pas de tout ce que Black Mirror peut nous raconter.
Moi, du côté de l'enseignement, donc je vais essayer d'être positif, là, vu que j'étais super négatif avant. Moi, ça a été une vraie révélation, c'est-à-dire que les premières tentatives qu'on a eues, qu'on a fait sur les trucs dans l'espace, d'autres trucs dans le monde des entreprises, etc., etc., soudain, j'ai vu les étudiants comme je les avais jamais vus avant, soudain, ils m'ont vu moi comme ils m'avaient jamais vu avant, soudain, ça a débloqué, à mon avis, des situations pédagogiques hyper intéressantes sur le rapport à la mesure, le rapport à la théorie, le rapport à l'expérience, et donc je pense qu'il y a tout un univers entre le jeu de rôle, la réalité mixte, etc., etc., à explorer dans le monde de l'enseignement. Je pense qu'on en est qu'au tout début. Alors en physique, on en est vraiment qu'au tout début. Et il y a tout un terrain de jeu, à mon avis, très fertile et crucial pour re-rendre un petit peu ces sciences intéressantes au niveau de l'enseignement. Et ce que je peux conclure aussi de cette table, alors c'est dur après passer après E2 là en plus qui nous font des tas de projets incroyables. Mais c'est justement que, à mon avis, il y a aussi du sens pour nous enseignants, d'engendrer des collaborations ou d'arriver à choper ces personnes-là, alors que nous, on n'a pas un rond à leur donner ou presque, mais dans un moment donné, quelques brainstorming ou quelques cogitations collectives pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres manières de transformer l'enseignement. Alors sur les projets très concrets, donc on a plein d'idées de nouveaux scénarios. On a une étudiante du CRI qui réfléchit à ça avec nous aussi, qui veut nous mettre de la science-fiction partout. Donc nous, on se méfie bien sûr, qui en plus adore la réalité augmentée virtuelle, donc on se méfie encore plus. Moi, mon prochain scénario rêve, alors c'est le truc le pire possible par rapport à tout ce qu'on a raconté, donc il n'y a pas des étudiants à nous ici, donc je peux le dire, ça serait que les étudiants arrivent dans un lieu et puis soudain orage électromagnétique et ils paument tous leurs téléphones portables, tous leurs ordinateurs, et il va falloir s'en sortir pendant 2 jours à réinventer des technologies steampunk, passéiste, uchronique, enfin je sais pas comment les appeler, et réinventer en gros du pot de yaourt pour se parler au téléphone, etc., et voir comment ils tiennent le coup et comment nous tient le coup pendant 2 jours. Donc là, je sais plus comment ça s'appelle, de l'infra-réalité augmentée, mais voilà. Et moi, j'aime bien essayer d'explorer ces deux extrêmes, c'est-à-dire aller mettre beaucoup de technologie quand elle est justifiée, qu'elle a un sens, ou au contraire, dépouiller complètement et voir comment des étudiants qu'on éduque à la technologie, en gros, et qu'on éduque à manipuler vraiment des choses très sophistiquées du point de vue fondamental et expérimental, qu'est-ce qui se passe quand on leur pique leur jeu habituel et qu'on les décale. Et puis le dernier truc, c'est ce que disait Fabrice, c'est que la chose que ça crée le plus, c'est le lien. C'est-à-dire que nous, le TP, il n'y a pas plus mortel. On est seul face à une expérience ou à deux, et puis il y en a un qui fait le rapport pendant que l'autre fait l'expérience, en gros. Et là, soudain, ils doivent faire des trucs ensemble. Soudain, ils se découvrent. Et à la fin de l'enseignement, ils disent « Ah, soudain, eux, je ne savais pas qui c'était dans l'amphi, et maintenant, je les connais, et on se marre, et on est ensemble, et on est un groupe. » Donc, je crois que ça crée vraiment une sorte de communauté remarquable.
C'est très positif.
Oui. Juste un truc positif, ce que tu disais. Moi, plusieurs fois, je le disais, moi, je veux plus d'écran, en fait. Par contre, je veux de l'informatique, on va appeler ça ubiquitaire. C'est-à-dire que l'informatique ou la technologie peut être là, mais elle se voit pas. Et c'est ça, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je fais des fois des petits sondages, alors des gens de mon âge, c'est le jeu d'échecs de Star Wars dans l'original. C'est-à-dire qu'on joue au jeu d'échecs, mais les petits bonhommes en hologramme ou je sais pas quoi vont se taper dessus en vrai. Et ça, c'est revenu souvent en fait dans l'imaginaire en disant on a une mécanique classique, sauf qu'elle est améliorée ou et il y a toute une narration. Et juste aussi ce matin, j'ai mon fils qui a 16 ans et qui fait son stage d'observation. Et ce matin, je l'ai amené, il est à Paris Diderot dans un laboratoire de recherche de physique, mécanique des fluides machin. Et en fait, j'arrive, ils me font visiter et là, je trouve un labo mais hallucinant de bazar, de trucs qui... Enfin voilà, vraiment, on aurait dit, vous savez, dans Retour vers le futur, le truc du doc, là. Et en mieux. Et puis, je vois plein de tableaux. Moi, je ne connaissais pas, toi, tu dois connaître, mais plein de tableaux noirs avec des fonctions, des trucs dessinés. Puis, je dis, ah, c'est marrant parce qu'il y a peu d'ordinateurs. Et puis, il me dit, ils rigolent tous. Il me dit, ah, non, c'est naze. L'informatique, on s'en sert très peu, en fait. On ne réfléchit pas avec l'informatique, en fait. C'était marrant parce que je croyais que mon fils allait voir que des gens devant des ordinateurs. Et en fait, pas du tout. Il y avait plein de trucs qui, voilà, ils travaillent que sur l'eau, là. Et plein de tableaux noirs avec de la craie. Ils disent, non, mais on réfléchit comme ça. Donc, c'était plutôt marrant. Et ça l'a étonné à 16 ans. Pareil, il croyait voir que des ordinateurs partout. Et il y en a, bien sûr, puisqu'ils ont des capteurs partout, des choses comme ça. Mais la réflexion et la créativité, et surtout, ils le font à plusieurs, on a vu, ils sont devant un tableau noir. Et puis, je sais pas ce qu'ils se racontent là, mais sûrement des choses passionnantes.
On va conclure ici. Donc déjà, merci au CRI. Merci au CRI de nous accueillir ce soir. Et merci en particulier à Michael d'avoir beaucoup aidé l'organisation de cet événement. Merci aux trois intervenants, bien évidemment. La discussion a été très riche. Dernier petit mot, le Gaming Lab, le prochain meet-up, il y a un meet-up environ tous les 3 mois. Le prochain, il aura lieu en octobre. Et son thème, ça sera « Jeux et enjeux ». Merci beaucoup à vous tous. Et puis, à tout de suite. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous rendre sur la page web de l'épisode pour retrouver toutes les informations partagées lors de cette conférence. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site, Twitter, Facebook ou Apple Podcast. Et surtout, parlez de nous autour de vous. Restez attentifs aux prochains événements organisés, et d'ici le prochain, jouez bien !